on parlera de Minuit tout à l'heure. Entre temps, on parle du jeu de rôle.
Et c'est parti.
Alors, le jeu de rôle. On a fait un appel. On a dit, si vous voulez parler du jeu de rôle, vous êtes les bienvenus. Il y a Siol qui a répondu à notre appel et qui nous a fait deux chroniques. Donc, on va mettre la première et puis la deuxième, on va peut-être se la garder pour le premier... La rentrée, peut-être. Ou,
la rentrée proxy jeu, le 1er août.
Voilà.
Ah, c'est comme la Ligue 1, vous reprenez début août.
Ouais, nous, c'est un peu, tu sais, c'est pas... Nous, le périodique à périodique, on est des pros là-dessus.
Non, on enregistrera forcément un truc en août, tu nous connais, et après, je sais pas quand on sera en ligne non plus, je me connais voilà. Aussi.
Donc, Siol qui nous parle de jeu de rôle.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Cela fait quelque temps qu'Olivier et Jérémy appellent un chroniqueur jeu de rôle. Vu que je n'étais pas trop occupé entre mes lectures de la version française d'Ars Magica 5e édition ou mes préparatifs pour la prochaine séance d'Oltré, je me suis dit que je pouvais peut-être vous en toucher quelques mots. Le jeu de rôle, Plane en a déjà fait une présentation dans ses Indécents. De même, Olivier et Romaric Briand en ont parlé dans le crossover Proxy Jeu La Cellule. Bon, je vais quand même résumer ça rapidement, et oui, première chronique oblige. Navré pour ceux à qui ça donne un effet de redite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'étaler. D'ailleurs, j'ai droit à un temps assez serré. Et de toute façon, le jeu de rôle, il y a autant de définitions quasiment que de rôlistes. Le jeu de rôle peut avoir plusieurs contextes, mais celui dont je parle, c'est celui dit « sur table ». D'ailleurs, les anglophones disent « tabletop RPG ». C'est le jeu de rôle ludique. Et ce n'est donc pas une surprise si je vous annonce que c'est un jeu de société. En même temps, sinon il y a peu de chances qu'on en parle sur Proxy Jeux. Juste avant de continuer toutefois, un petit mot. Ne sombrez pas dans la paranoïa car votre truc préféré ne rentre pas dans la case. Ce que je vais dire ensuite est une généralisation sur le jeu de rôle. L'idée de base du jeu de rôle est de créer, de se raconter une histoire en groupe. L'un des joueurs du groupe va prendre le rôle de meneur de jeu, ou toute autre appellation suivant le jeu et l'ambiance qui va avec. Je dirai désormais MJ pour ce rôle. Les autres joueurs prendront le rôle de personnage et décriront comment ces personnages évoluent dans le monde que le MJ décrira. Quand je parlerai de joueurs, ce sera par opposition au MJ. Pour continuer avec quelques acronymes ou définitions qui peuvent sortir, PJ correspond à personnage joueur. Comme le nom l'indique, les personnages que jouent les joueurs. PNJ de son côté et personnage non-joueur, interprété par le MJ. Et la table, avec un T majuscule, c'est l'ensemble joueur plus MJ. Et si je dis JDR, c'est jeu de rôle. Jouer un jeu de rôle, c'est donc construire une histoire par le biais d'un dialogue entre les joueurs et le MJ, mais aussi entre les joueurs. Ce dialogue est en plus régi par des règles. On peut diviser les règles en trois grandes catégories. Le système de résolution, que je détaillerai un peu après, les règles dites tacites, assez souvent non citées dans le jeu auquel on joue et qui sont en général non dépendantes de ce jeu. L'une des premières, par exemple, c'est « on ne modifie pas ce qui a été dit avant » ou « on tient compte de ce qui a été dit avant » en fonction d'eux. Enfin, le troisième grand type de règles, c'est les règles qui régissent la parole autour de la table et encadrent les éléments qui peuvent être influencés par celui qui a la parole. C'est un point peu abordé dans les jeux anciens ou classiques, mais qui tend à se développer actuellement. Détaillons le système de résolution. J'en parle un peu plus, car il est présent là dans tous les jeux. Il sert à déterminer qui a raison en cas de conflit. Un conflit est un point de l'histoire où la table n'est pas entièrement d'accord sur l'issue d'une action ou d'une situation. Par exemple, le MJ décrit un PNJ qui détient une information que les PJ aimeraient avoir. Un des joueurs décrit comment son personnage essaye de convaincre le PNJ de tout leur dire par pure bonté. Le MJ, ayant décidé que son PNJ espérait tirer quelques bénéfices de l'information qu'il détient, il y a donc un conflit entre le joueur et le MJ. Celui qui gagnera le conflit, souvent par le biais d'un lancer de dés, verra son point de vue adopté pour continuer l'histoire. Dans notre exemple, si le joueur perd le conflit, pas de bol, s'ils veulent l'info, les PJ devront allonger la monnaie. S'il le réussit, il aura touché un point sensible du PNJ qui leur donnera gratis. Et oui, un conflit, ce n'est pas forcément que pour mettre un coup d'épée dans la tête d'un PNJ. Le MJ est souvent dit aussi garant ou arbitre des règles, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est souvent le seul à avoir lu celle-ci, voire, dans certains cas, pour les jeux dits à secret, le seul à avoir le droit de les lire. La seconde est que, contrairement à d'autres jeux de société, il y a une certaine souplesse dans l'application des règles, car le but final est plus de se raconter une bonne histoire, pas forcément de faire des calculs d'apothicaire. même si je ne dénie pas qu'on puisse y trouver un certain plaisir. Les jeux de rôle sont souvent présentés sous la forme de livres, qui présentent, dans l'idéal, l'univers du jeu, les règles pour y jouer, dont les fameuses règles de résolution, et un scénario ou un exemple de partie détaillé pour que le lecteur puisse se faire une bonne idée de ce que ça peut donner. Au niveau des univers, il y en a pour tous les goûts, toutes les époques, depuis le passé de la période glaciaire du Wurm jusqu'au futur de l'expansion à travers les étoiles innombrables. Tous les genres, du plus héroïque au plus sombre. Vous avez une série, un film, une BD ou un roman qui vous botte et dans l'univers duquel vous aimeriez jouer ? Il y a de fortes chances qu'il existe déjà un JDR qui s'en rapproche. Ne reste plus qu'à le trouver. Oh, je vous laisse, il y a mon Katz qui m'appelle. De Cthulhu, bien entendu. Et pour ceux que ça amuse, j'ai évoqué plusieurs noms de jeux, en clair ou pas, de ceux qui sont dans ma bibliothèque ou qui ont pu marquer mon imaginaire. Si vous voulez tenter de les lister, super, cliquez et en réponse au billet lié sur Proxy Jeux et commentez. À bientôt. Et d'ici là, jouez bien.
Alors bien sûr. Et puis moi aussi, je voulais parler de jeux de rôle. Puisqu'on a mis en ligne il n'y a pas si longtemps que ça le crossover qu'on a fait avec le podcast de la cellule, le blog de la cellule, pardon. Ouais. Romaric Briand nous disait que une des passerelles pour passer du jeu de société au jeu de rôle, c'était Zombie Cinéma.
Ah, c'est ta VHS là.
Ouais. VHS. Alors, tu vois,
c'est comme Atmosphère. Alors, par contre, t'as pas de lecteur DVD, mais t'as encore un magnétoscope chez toi.
Le mec qui a dit, j'aime pas les jeux de zombies.
Ouais,
non, mais
les zombies, y en a trop.
Il avait pas encore bu à ce moment-là.
Je suis bourré de contradictions.
Mais est-ce que celui-là, il dure 15 minutes?
Alors, non, il est plus long.
Non, mais
c'est un jeu de rôle.
Il est plus long. En fait, c'est un jeu d'expression. C'est un jeu où on se raconte une histoire.
Mais c'est pas un jeu de rôle.
Déjà,
c'est un narratif.
Alors,
c'est plus un jeu de rôle qu'un jeu de plateau. C'est beaucoup
plus. Est-ce qu'il est sur le grog?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que c'est que ce matériel?
Tu peux aller voir sur le grog.
Mais il y a pas de notes.
Quoi? Il y a pas quoi? Pas dans celui-là, non.
Il y a pas de paravent du maître du jeu.
Non, parce qu'en fait, c'est un jeu à narration partagée. Chacun à son tour va. Je vais expliquer. Bon, déjà.
Si c'est narration partagée, c'est pas un jeu de rôle.
C'est un jeu de héros Tuovinen qui, comme son nom l'indique, est du nord de l'Europe. Je dis pas s'il est finnois ou norvégien parce que je ne sais pas, mais il est de là-bas. Qui répond aux questions. C'est très facile, d'avoir des relations épistolaires avec lui par email parce qu'il répond pratiquement dans le moment où on lui envoie un mail. Il est très accessible.
Est-ce qu'on dit épistolaire pour des emails?
Je sais pas.
Ça dépend de l'âge qu'on a.
Parce que normalement, je suis solaire avec le nord de l'Europe, il faut quand même 3 semaines de délai. Quoi, tu vois.
Oui, alors c'est lui qui. Il m'a fait tout un speech sur. Bon, on vous envoie votre jeu. Ah, ça coûte à peu près 25€, ça se vend sur son site.
Site, ouais.
C'est Arkenstone, le site.
Ah, mais t'as carrément le PDF.
Oui,
t'as carrément
payé,
le PDF sur Arkenstone. En fait, tu peux télécharger le jeu. Alexis, tu peux te faire ton zombie cinéma.
Tu peux même faire un zombie cinéma beaucoup plus joli que le mien. Oui, mais bon, après, voilà, bah, c'est ça, tu vois, on parle justement de. On passe mais de mini-ville à zombie cinéma.
VHS, quoi.
J'en ai un stock, moi.
De VHS?
Ouais, de boîtier seulement. Et je range des trucs dedans.
Et bien voilà, tu vois, c'est rémunérer l'auteur, quoi. Là, il n'y a rien. Il y a un petit plateau qui est en fait sur une. Comment ça s'appelle, Eve, ça?
C'est pas une carton plume.
Non, c'est fait pour dessiner dessus, Eve.
Ah oui.
Pardon, c'est une petite toile.
C'est une toile.
Une toute petite toile, même. Ouais, c'est un format A5.
C'est dessiné, c'est gagné.
Grâce à Zombie Cinéma, fais-toi une toile.
Et ben, c'est le cinéma.
une règle dans un format méconnu.
Qui est un format A4 puis en 3, quoi.
Non, mais non.
A5,
une règle en triptyque. Ouais,
C'est un 5 plus un demi.
Bon, voilà, c'est bien. Ça tient dans une cassette vidéo, quoi.
Plus quelques cartes. Voilà, les cartes sont là uniquement pour créer les personnages.
Oh, faut des l'ambiance. Ah là là, c'est bousé de mes mots.
C'est ça. Ouais. Enfin, c'est un jeton pour un jeton tout moche pour désigner le premier joueur, celui qui a la parole.
Non, on va faire ça pour le podcast aussi, ça c'est très important.
On peut. Et puis donc l'idée c'est que alors l'idée c'est très simple.
Ah, c'est un jeu de rôle. Y a
zombie cinéma, c'est du cinéma avec des zombies. C'est-à-dire l'idée c'est de recréer des films de zombies.
Romero, quoi.
Romero. Donc, scène d'ouverture, vous êtes dans le mall, vous faites vos courses, et là, vous entendez... Donc, il y a des étapes, en fait. Il y a des étapes quand les zombies commencent à c'est une rumeur et puis finissent à de toute façon
ils sont parmi nous,
sont parmi nous mais nous ne sommes plus, tu vois.
Ouais, ouais.
Et les choses vont évoluer, c'est-à-dire que les zombies d'abord ça va être une rumeur, après on va les entendre, on va les voir et puis après la propagation du virus va prendre d'autres formes, les zombies vont avoir d'autres pouvoirs, etc., etc. Et l'idée c'est que chacun à son tour va dépeindre une scène, donc traveling, le cinéma, pas le cinéma mais le mall, on fait nos courses, on est là tranquillement un dimanche après-midi, on mange des glaces et tout ça, et puis super. Après chacun va, la parole va passer de l'un à l'autre et puis on va, alors tu dis super et c'est ça qui est très, très intéressant, alors c'est quoi ta scène, donc tu vas dire bon bah moi je me barre, je veux aller quelque part, et l'autre tu vas dire non nous on reste dans le mall. Et il va y avoir des conflits. En fait, c'est ça en fait, qui va définir en fait, comment les choses vont évoluer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être d'accord sur la façon dont l'histoire va être narrée. On va avoir des dés. Chacun va se positionner pour l'un ou pour l'autre. On va lancer les dés. Celui qui a fait le plus grand va pouvoir, lui, continuer l'histoire en disant « Eh ben voilà, vous ne vouliez pas qu'on reste ? Ben, moi, je dis qu'on reste. » Et c'est comme
fois,
ça que ça va se passer.
Il dit une fois les zombies.
Et, non seulement tu vas dire comment ça va se passer pour les humains, mais tu vas dire comment ça va se passer pour les zombies, ce qui va se passer exactement, jusqu'à ce qu'il y ait une autre scène. Donc, par exemple, bah là, c'est extérieur du mall, sur le parking. Donc, il y a eu un truc où on est sorti, et puis là, c'est les gens qui courent partout, les zombies commencent à apparaître. On ne les voyait pas, on les entendait juste, et là, on les voit. On voit les gens qui sont attrapés, qu'on commence à mordre. Et puis, tout le monde... Donc, une fois que tu as posé la scène, tout le monde va dire « Ah oui, ben alors en fait, moi, je vois bien, là-bas, il y a un SUV, on va aller dedans, on va s'enfuir. Ouais, allons-y. » Donc, on court tous sur le truc. Et chacun, tous ensemble, on va raconter l'histoire. Et il y a un système de confrontation qui fait qu'on va avancer, mais pas au même rythme, sur ce plateau.
Avec chacun a son pion, en fait, sur le plateau.
Chacun a son pion. Et en fait, en fonction des confrontations... Il y en a un qui va avancer et il y en a un qui va reculer. Donc, on avance, mais aux dépens des autres. Et après, on peut se sacrifier, on peut reculer pour que les autres avancent. Le truc, c'est que ça n'a pas de sens de se dire on gagne, tout le monde va s'échapper. Parce qu'on ne s'échappera pas tous. Parce que de toute façon, la finalité de ce film...
Comme dans les films, tu vas crever.
Mais c'est ça.
Tu te fais découper par la tronçonneuse quand il y a l'accident du camion.
C'est ça, en fait. L'histoire, c'est savoir. Ça peut être... Quand j'ai commencé à imaginer, si tu veux, on en a fait une partie, quand j'ai commencé à imaginer des trucs, je me dis, ah, ça serait bien qu'on déporte tout ça, mais que ce soit un background médiéval, tu sais. T'as des possibilités qui sont énormes, parce que ça peut être ça, ça peut être, tu peux dire, bah voilà, on est chez les Mormons, tu peux dire, on est à Tokyo, on est dans l'espace, tu peux faire un hack Dead Space, quoi. Ouais. Tu vois, limite alien. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que tu te dis, c'est juste un support pour te faire revivre les zombies.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, quelle est la rejouabilité ? Mais en fait, si tu
transposes... Elle est juste énorme.
Et là, les dés, c'est rejouable autant que des films zombies se renouvellent. Ça permet de résoudre des situations...
Ouais, en fait, c'est très simple. Si on a un conflit, c'est juste... bon, donc j'ai dépeint la scène, j'ai dit, ouais. Voilà, on est sur le parking. Et après, on commence à discuter. On va prendre le SUV... on s'éloigne en marchant, on fracasse les voitures. D'accord. Pour prendre ce qu'on trouve. Et puis il y en a un qui dit, en fait, on va pas être d'accord. Il y a un moment donné, moi je vais dire on s'en va, et toi tu dis, bah non, on fouille les voitures, on essaie de récupérer le plus possible de trucs. Et en fait, ben, c'est là qu'il va y avoir confrontation. Je vais mettre un dé, tu veux mettre aussi un dé, et les autres vont prendre parti, soit avec toi, soit avec moi.
D'accord.
Et en fonction du résultat, le résultat va s'appliquer au groupe qui aura pris parti pour l'un ou pour l'autre. Tu peux dire, non, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez... la personne qui sera sur non la personne qui sera sur le côté qui a dit je m'en fous, il n'avancera pas, les autres vont reculer ou avancer, et en fin de compte c'est assez ça peut être assez logique. Nous dans la partie qu'on a faite, c'était on veut rester dans le centre commercial, non on veut s'en aller, on s'en allait, ils se sont fait bouffer quoi.
Et comment ça marche du coup les joueurs, ouais, voilà, parce que du coup les joueurs qui reculent ou etc, ou qui vont, il y a un moment les gens ils te font bouffer, comment
ils sont bouffés,
tout le monde ne survit pas, donc ils font quoi après?
Et après ils jouent les zombies, ils prennent parti pour les zombies quoi.
Donc ils racontent l'histoire d'un point de vue zombie.
Ouais.
Ils viennent rentrer dans l'histoire,
ouais,
et là il y a plus rien qui les arrête.
Bah non.
Ils ont un mécanisme.
Non, parce que tu fais toujours des confrontations avec les joueurs, mais en fait eux avancent pas et c'est les joueurs qui reculent ou qui avancent. Il y a un système comme ça.
D'accord.
Mais encore une fois, hein, le plateau, il est fait pour permettre
non, mais sans le plateau, ouais,
à l'histoire d'évoluer. Ouais. Et puis en fin de compte, comme les zombies avancent vers toi, il y a certains personnages qui vont reculer vers les zombies, qui vont se faire bouffer. En fin de compte, c'est un peu comme un timer qui dit à un moment donné, voilà quoi.
Et quand vous avez joué, enfin, je sais pas, moi j'ai quand même regardé pas mal de films de zombies. Ouais. Ça aide quand même ou pas? Ou tu vas forcément piocher dans la culture zombie, ou moins cinématographique et autres, non?
C'était bizarre.
Non, ça commençait comme un film de Noël sur M6, tu sais. C'était une petite famille dans un supermarché. Et on venait acheter un couteau électrique pour la dinde. Et il y avait des personnages en couleur. Tu vois, moi j'étais la vieille à cariâtre, horrible. Il y avait...
Moi j'étais la tante. Il y avait une
j'avais ado. Ma fille, toi t'étais la fille que mon mari avait eue avec sa maîtresse. Donc je te haïssais.
Ah ouais.
Et il y avait le beau-fils et la petite fille. C'était magnifique. J'étais en chaise roulante en plus, ils ont fini par m'abandonner avec les zombies.
Non, elle t'a poussé, ta petite fille t'a poussé.
Ah oui, elle
m'a poussé
dans le vide, elle s'est jetée avec moi.
Elle était gothique et elle s'est jetée dans le.
Mais vous avez eu un conflit pour savoir si vous me laissiez au milieu des zombies pour vous barrer ou pas?
On devrait s'arriver là, non?
Non, non, c'est un peu rare là de chez Repoprod où tu laisses. Tu t'envoies le chat. Envoyez le chat!
Mais clairement, tu vois, c'est ce truc là. Alors c'est. Après, ça peut être très rapide si les gens veulent. Enfin, ça peut durer. Là, on n'a pas joué longtemps, on a joué une petite heure. Ça peut être beaucoup plus long si les gens se prennent au jeu et
si tu
commences à.
Bizarres, oui.
Ouais, il y avait des scènes bizarres.
Et les cartes, elles servent en fait à avancer un peu dans les questionnements, non? Parce que je voyais, il y avait questions éthiques, enfin voilà, des trucs un peu.
En fait, tu te représentes mieux.
Ouais.
Ça sert en fait, donc t'as trois couleurs. Tu vois, c'est la couleur verte, c'est l'adolescent, une famille,
le
middle
macho.
Class, un macho. Et après, en rouge, alors en jaune, c'est la naïveté, des problèmes mentaux, faible d'esprit, enfin une volonté faible.
C'est pour ton perso au début.
Et en fait, tu vas construire
ton
personnage.
Ah d'accord, ok, d'accord.
Et puis t'as un troisième volet sur ton personnage. Tu es spécial. C'est votre faute. Donc tu vois, tu vas. C'est là que un peu le jeu de rôle va se mettre en place.
Tu fonds en larmes, c'est de ta faute. Un peu plus. Vers 45 minutes, les zombies apparaissent. C'est vers 1 heure en général, tu commences comme ça. Et tu n'iras pas avec le premier dévoil.
Donc, moralité. Si vous voulez vous mettre au jeu de rôle, il y a plein de façons différentes. Je suis pas forcément persuadé, comme Romaric l'a dit, que c'est un pont entre le jeu de société et le jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on pense?
Bon, j'ai pas trop vu le côté jeu de société en fait, personnellement.
Voilà,
c'est ça. Ça m'a l'air quand même très narratif encore.
Ouais, c'est ça.
Le plateau, c'est un petit support à la narration, voilà, mais après, on peut pas appeler ça un jeu de société, je veux dire.
Non, mais c'est pas mal, ça me paraît pas mal. Hein.
C'est un jeu de rôle fun, ouais.
Est-ce que c'est familial?
Oui, tout à fait.
Ça dépend de la fiction qu'on invente.
Tout à fait, tu remplaces les zombies par des loups ou un monstre un peu et tu. Tu peux vraiment
une invasion de poux à l'école
ouais. Non, en tout cas, ça donne envie, la description que t'en as faite. Et effectivement, tu te dis tout de suite que bah, t'as envie de porter le truc dans une ambiance, je sais pas, western.
C'est ça, ouais.
Tu peux...
Ouais, tu commences un truc normal pour la première partie, je pense.
Et Jérémy, t'as posé la question de savoir si c'était une aide ou pas d'avoir en tête les
zombies, ouais.
J'irais oui et non. Oui, parce que ça cadre les choses. C'est-à-dire que tu t'expliques, voilà, on va d'abord poser la scène, après on racontera comment ça se déroule exactement comme dans un film. Donc, les gens, quand tu dis ouais, 40e minute, c'est comme ça. Après, je pense que la première partie, la partie découverte, tu l'as fait classique, de chez classique, comme on a pu la faire, un peu à la Zombieland. Et puis après, tu peux justement rejouer. C'est peut-être ça, en fait, le vrai intérêt. C'est de pouvoir rejouer, de la faire à la Dead Space,
que ce qui est le plus intéressant. Autre que rejouer, c'est jouer avec des gens différents parce qu'on apporte vraiment ce qu'on aime et ce qu'on connaît au jeu et ça peut permettre de faire des trucs vraiment différents à chaque fois. Par exemple, on aurait fait la partie sans les gens qu'on a invités, je pense que ce serait pas parti en lettres comme ça et c'était à mourir de rire.
Ouais, mais c'est ça aussi.
T'as besoin. Donc voilà. Zombie cinéma. Que ça peut être simplement une histoire qui fait peur. Vous pouvez remplacer les zombies si vous les aimez pas comme moi par toute autre chose. C'est Eero Tuovinen qui a. Bravo. Et puis voilà.
Tu mettras le lien par contre pour
oui,
le billet.
Tout à fait. Je voulais parler de Cthulhu 1890, mais simplement je n'en parlerai pas.
Voilà, parce qu'il se fait tard.
Et puis,
est-ce qu'il y a une méduse dedans? Non, enfin une...
Un poulpe.
Il y a un poulpe.
Il y en a un derrière toi, fais attention.
Il y a un vrai clown. Enfin, sans les ailes.
Pourquoi il aurait des ailes?
Je suis chez des adorateurs de Xurkblubli.
Après Zombie Cinéma, je te propose de passer aux écrans.
Oh, c'est...
Oh, bien.
Ah, c'est
bien.
Ah, c'est beau.
C'est une toile. Allez, c'est parti.
Que de belles transitions ce soir.
Mais j'aurais pas de zombies, je crois, dans les écrans.
On va commencer par une suggestion de Arnaud Van Meijzenwinkle.
Ah!
Van avec la bière, ça va mieux. Hein.
Tu vois comme quoi ça désinhibe vraiment
ça
la bière.
La langue.
Arnaud qui nous a suggéré un post Trick Track. Pour les jeux sous Android, donc vous êtes nombreux à nous dire oui, mais moi j'ai pas de iOS, je veux jouer sur Android. Donc bah, vous allez sur le site podcast.proxy-jeux.fr et puis bah, vous aurez ce post sur le forum.
Ouais, et en plus, connu. Mais en plus dans l'actu, là, j'ai plusieurs trucs Android en fait. Petit à petit, on avait dit la tendance va changer.
On va commencer par l'Android.
Déjà ?
Ah bah on enchaîne, oui.
Et bah c'est parti. Alors. Ok, juste en news, il y avait Magnifico, que je ne connais pas, qui est un jeu par auteur de Dust, qui était sorti chez Edge notamment, qui est un jeu d'affrontement, je pense que c'est un peu mieux qu'un risque, mais il était sorti sur iPad, on l'avait raté.
J'aime bien.
Un peu mieux qu'un risque.
Ça met l'échelle, tu sais, t'as ouais. Risque.
Bien, hein.
Le risque, tu vois, c'est un peu au-dessus de la bonne paye. Et là, Magnifico, c'est un peu au-dessus de risque.
Alors, je me base sur les commentaires des gens que j'ai regardé sur BGG, je n'ai pas joué ni à Dust, ni à Magnifico, je ne peux pas vous dire. Donc je sais pas, c'est... Et voilà, et bref, c'est sorti sur iPad il y a quelques mois, en mars je crois, et on l'a absolument pas vu passer parce que je pense qu'on connaît pas le jeu. En plus, ça s'appelait Da Vinci's Art of War, donc on risquait pas de le trouver.
Art of War.
Art of War, l'art de la guerre de
Da
Vinci.
C'est
pas Da Vinci Code, hein.
Non mais le...
Sun Tzu. Ah oui, non.
L'art de la guerre, c'est pas Sun Tzu.
Bah là, il y a celui de Da Vinci.
C'est Da Vinci.
Bref. Donc bref, le but c'est de conquérir l'Europe du 16e siècle. Et il vient de sortir en s'appelant Magnifico, donc c'est son vrai nom de scène, entre guillemets, son nom de société plateau, sur Android. Alors je vous mettrai les liens. C'est chez Slytherin Game, le développeur, c'est ceux qui ont fait Battle Academy, qui est plutôt un wargame qui est pas mal. Le problème qu'ils ont chez eux, entre guillemets, c'est... parce que vous n'aimez pas quand on parle de jeu, vous estimez que des fois on parle de jeu cher, donc ils ont souvent des jeux qui sont à 8,99€, des choses comme ça.
Bah, c'est un peu devenu le...
Ça devient un peu le prix, mais en même temps, il y a des jeux dont les prix baissent en ce moment.
Et quand tu vois les soldes de Steam, tu dis « Waouh, c'est cher !» J'ai pas payé Fez à 8,90€. Hein.
T'as payé combien plus ?
Ah non, moi.
Ah bah t'as eu de la chance.
4€ quelque chose.
Bah... C'est un jeu, j'ai dû le payer 15€ sur ma Vita, je veux dire, il les mérite. Je l'ai acheté en solde sur la Xbox, j'ai acheté plusieurs fois.
Plusieurs fois.
Avant que je trouve le meilleur format pour le jouer, finalement, c'est sur ma Vita. Mais voilà, hein. Parce que moi, je joue dans le métro.
À Fez ?
Je raconte ma vie.com. Oui.
D'accord. Et donc, Magnifico, donc, ça sort sur, c'est sorti sur iOS et ça sort sur Android. Et toi, tu conseilles pas, alors ? C'est 8,90 et c'est...
Je sais pas le prix, non, c'est peut-être un peu moins cher, mais je sais pas, je peux pas te dire si je conseille ou je conseille pas. J'ai pas du tout essayé, mais c'est pour dire, ça sort sur Android aussi, 3 mois après la version iOS.
Alors, dites-nous, si vous avez essayé Magnifico ou si vous avez essayé Da Vinci's Art of War, faites-nous un retour, dites-nous si c'est bien et surtout, si vous l'aimez, plébiscitez-le. Un autre jeu qui est sorti sur Android, c'est Mr. Jack Pocket, mais qui est aussi arrivé sur iOS.
Ouais, il avait sorti en fait sur Android au début,
ouais.
En disant « oui, on fait Android, machin, j'aime pas iOS ». En fait, c'est pas tout ça, en fait, c'était juste un coup de buzz, parce que justement, du coup, on a parlé du jeu plus de ce côté-là. Du fait que c'était un des rares qui sortait sur Android, ils l'ont porté sur iOS, on avait parlé un petit peu avec Bruno Catala quand il est venu. Au départ, ils avaient prévu que du coup, le jeu serait... tu achèterais le jeu et tu auras un supplément si tu voulais jouer à deux sur la même tablette. Finalement, ils ont pris le parti d'augmenter le prix d'un euro et puis tu le payes donc 5,49€, si je me trompe pas, sur iPad et tu peux jouer à tous les modes, le mode Blitz qui est un mode solo où tu vas tenter d'en gagner un maximum et puis le maximum de parties d'affilée en fait, ou bien tu peux jouer à deux sur le même écran.
Et du coup, ils ont fait la mise à jour. Les gens qui l'avaient sur Android, sans payer plus, tu peux maintenant avoir. T'as la version de joueur que j'ai essayé et qui est plutôt pas mal, ouais.
Ouais, c'est un jeu.
Qui est pas mal, qui se joue, quoi. Qui se joue.
Ouais, carrément. En fait, c'est un jeu. Faut savoir que si tu achètes la version normale jeu de société, on va dire, tu as payé quoi ? Une dizaine d'euros ? 12 euros peut-être ?
Ouais,
un peu
je suis
comme
pas
ça.
Sûr que ce soit 10 euros, ouais.
Ouais, et donc c'est pas cher. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert via les versions numériques. Avec ta merveilleuse musique d'ambiance par Olivier. Et j'ai servi de bêta, j'ai joué les bêta testeurs sur la version iOS pour remonter 2-3 bugs.
Par contre, excuse-moi, on parlait de.
Ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est. Je vous. Attends. J'aime beaucoup cette bande-son.
Et donc, on va faire une minute de silence.
Ça me fait penser à 28 jours plus tard. Ah. J'aime beaucoup en fait.
Tu sais que la BO de. Bon, ça n'a rien à voir le jeu de société, mais tu sais que Godspeed You Black Emperor, ils ont une chanson dans un film, c'est dans 28 jours plus tard, et c'est le seul film pour lequel ils ont accepté qu'une de leurs chansons serve dans un film. C'est quand ils sortent dans Londres et que c'est tout vide, en fait.
Ouais,
c'est
ça,
une chanson
c'est la
de
fameuse.
Godspeed,
ouais, elle est superbe cette chanson.
Ouais. Tu vois, là, t'as la version solo.
Qu'est-ce que ça donne Mr. Jack
je mets pas à jour
Duel, je veux dire, c'est pas la version solo.
Ouais,
c'est Duel.
Mais je mets pas à jour mes applications Android, c'est pour ça.
Et cette version est vraiment très bonne en fait. Et sur l'IA, je sais pas comment ils ont. Alors, je sais pas si c'est le même langage ou pas, mais en tout cas, moi, les premiers avis que j'ai eu, c'est que l'IA est aussi forte sur Android que sur.
Ils ont reproduit l'algorithme.
Que sur OS et que.
Non, c'est Big Ben, c'était pas ça tout à l'heure qu'on a eu. Bref, on peut y aller.
Et pour le coup, c'est vraiment un bon. Enfin,
le jeu est très bon.
Là, pour le coup, c'est... le format numérique se. Se prête vraiment bien ce jeu-là. Ouais. Je suis plus dubitatif sur les gros jeux de plateau, mais sur ce genre de petits jeux, c'est vraiment pas mal. Quoi.
Il est. On va dire, le jeu, ouais, effectivement, et en plus les parties sont courtes, on peut jouer à deux dessus, ça c'est agréable. L'IA est bonne, l'air de rien. Bon, ceci dit, c'est un jeu qui est plus simple que Puerto Rico pour adapter une IA, hein, donc. Mais le travail est bon.
C'est quoi ces bruits de force aussi t'attends entre les tours et.
T'attends pas vraiment,
ça,
il joue.
Réfléchit ou.
Il joue assez rapidement, il joue pas plus.
Ça réfléchit, mais ça réfléchit deux secondes quoi. Enfin,
ah, donc c'est bien.
Mais il a pas. Je pense qu'il a moins de possibilités aussi à évaluer que.
Et par contre, j'ai jamais. Enfin, la version débutant, la version 1, t'arrives à gagner. La 2, quand t'as un peu de bol, t'arrives à gagner. J'ai jamais gagné une version avec le niveau 3 quoi.
Faut vous apprendre à l'erreur. Déjà le mode milieu effectivement il faut être entraîné un peu, il faut avoir déjà bien joué. Effectivement. Après son interface, moi j'avais trouvé moyennement intuitive avec Android, c'est exactement la même qu'on retrouve dans iOS, donc elle est encore moins intuitive quand t'es dans le monde iOS. Mais
ferme ma boîte.
C'est pas très grave. Je pense que les gens s'en accommodent. De toute façon tu fais quelques erreurs au début parce que tu cliques pas aux bons endroits ou etc. Et après tu ça vient. Mais au final c'est quand même. Je pense que c'est un bon portage et en plus il a été aussi il a été remarqué, je sais plus, il a été dans un top 3 je crois chez Pocket Tactics ou un truc comme ça sur les jeux du premier trimestre, premier
qui
semestre.
Qui c'est qui a mis cette, cette news là?
C'est après. Alors et le et en fait j'ai surtout qu'il est sorti il y a déjà plus d'un mois et j'avais oublié d'en parler dans l'épisode précédent.
Ah bravo.
Honte sur moi. Ouais, mais bon, on vous remettra les liens. C'est, on vous le conseille, hein, c'est à 5€. Vous pouvez jouer tout seul avec une IA qui est bonne pour vous entraîner. Et puis vous pouvez jouer en plus à deux dessus après.
Alors c'est purement
ça
un jeu à
envie
deux,
d'acheter le jeu de plateau.
C'est purement un jeu.
C'est que à deux.
Oui, c'est un jeu en fait qui n'a rien à voir avec le. Enfin, ça garde les mêmes concepts de Mr. Jack où il faut trouver. Il y en a un qui est l'enquêteur, l'autre qui est Mr. Jack et il faut s'échapper, être découvert avec la lumière.
Il y a cadence des actions. T'as une action puis deux. Ouais. Puis une. Ça reste pareil.
Ça c'est resté, voilà. Mais après, c'est un plateau de 3 cases par 3 seulement.
Ouais. Bah, tu sens la patte de Bruno, quoi. Enfin, le gars qui aime les jeux à deux et qui.
C'est ça. Je sais pas, après, on dit ça si c'est.
Ah, la drôle de zèbre. C'est Ludovic qui a dit.
C'est ouais, Ludovic qui a né les trucs, on peut pas dire. Mais non, c'est un jeu à deux qui marche très bien. Et c'est, la version numérique, je vous le dis, hein, m'a donné envie d'acheter ensuite une version carte. Donc méfiez-vous. Hein. Mettez le doigt dans un engrenage.
En termes de sortie.
Oui, alors attends, parce qu'en parlant des autres jeux iOS Android, tu veux pas, mais l'air de rien. T'as pas de chance, Olivier, je suis désolé.
Mais,
c'est l'actualité.
Je vais le détruire,
ça.
Donc vas-y.
Non, mais on va pas le détruire, on va juste en parler. De toute façon, j'ai juste. Je l'ai pas essayé, mais si ce qui prend est sorti sur iOS et Android. Ah, pourquoi maintenant? Parce que c'est les 20 ans.
Il y a Stéphane Cerulli qui doit nous faire une présentation en vidéo.
Du si ce qui prend?
Oui.
Très bien. Bah, si c'est prêt à temps, on la mettra en billet.
Non, mais pour. Pas pour la maintenant. Pour la rentrée.
Ah bah pour la rentrée, bah on mettra ça alors en ligne à la rentrée. Ouais. Mais le 6 qui prend, bon on va vous dire tout de suite que je vois pas trop l'intérêt sur une tablette parce que...
Ah
hein,
non, bah, ah
voilà, on va pas rentrer dans les détails ni de la polémique du jeu, mais c'est un jeu qui
toi non plus tu vois pas l'intérêt.
Avec des cartons autour d'une table. et d'ailleurs, alors, Pocket Tactics s'est pas trompé puisqu'ils ont mis 3 sur 5.
Tu vois, il y a deux personnes en face de nous. Alors... ils sont un peu, tu vois, non, on va attendre que ça se passe, on fera des remarques tout à l'heure.
Non, mais moi, je tiens, moi, je reste, j'ai pas de parti pris, je reste objectif, je m'en tiendrai là, je voudrais éviter les unfollow.
Je ne prendrai pas part à cette guerre, parce que...
C'était avant-hier, les unfollow.
Si tu prends des chaînes, les passions.
Non, mais c'est tout, oui, je sais bien, mais c'est le hasard du calendrier, ils l'ont sorti là.
Bah non.
Ça fait même la une de... du magazine Spielbox allemand, parce que c'est les 20 ans en fait. Comment un jeu comme ça a tenu 20 ans, je sais pas, mais il y a bien les colons de Catan aussi au bout de 20 ans.
Je vais faire une vidéo sur Catan.
D'autres sorties, surtout
Carcassonne très loin des 20 ans là. Quand...
De quoi
Carcassonne,
2001. Ah, ouais. 2001, 2001.
Ah, donc ils ont encore le temps. Ils ont
c'est Catan qui est 95.
Ouais, 94-95.
Ouais, ouais, je pensais que Carcassonne c'était plus vieux que ça.
Non, c'est 2001. Le Spiel, ouais, c'est 2001. Mal, hein, après la sortie du jeu, je passe 2001.
Carcassonne, quand il est sorti, c'était déjà daté.
Ouais.
Donc, des sorties sur des plateformes un peu plus improbables. Suburbia en approche sur Kindle Fire.
Trop fort, hein.
Bah, c'est une base Android, mais.
Ouais, mais il n'est pas annoncé sur le Play Store, il est annoncé que sur Kindle Fire. Alors, il n'est pas encore sorti au moment où on vous en parle, ils ont juste fait un article pour dire qu'il va arriver sur le Kindle Fire.
Il y a combien de Kindle Fire ?
Eh bah, ben ouais, mais je me suis dit, finalement, ils ont peut-être pas tort. Peut-être que c'est un mal. Peut-être que les possesseurs de Kindle Fire, c'est comme ceux qui ont des iPads. Le Kindle Fire, il est taillé différemment d'un Android normal. Il est taillé autour du store. Et peut-être qu'effectivement, je pense que c'est un essai de leur part, peut-être qu'ils s'en vendront mieux.
Et puis, on parlait de Steam tout à l'heure, Ticket to Ride à moitié prix pour l'été sur Steam.
iPad et Android, pas sur iPhone. Mais ça vous donne un paquet, donc pendant les 2 mois, je pense que vous pouvez acheter à moitié prix Ticket to Ride. En sachant que si vous l'avez installé sur l'iPad, vous avez un deuxième iPad, enfin vous pouvez jouer, il marche entre deux iPads, il marche avec iPad, iPhone, on peut jouer ensemble. Et j'ai jamais testé vraiment, mais a priori, on doit même pouvoir marcher entre un iOS et un Android.
Ah, parce
et
que...
Peut-être entre un Steam et un iOS Android, mais je ne sais pas.
Vous voulez jouer à.
C'est-à-dire que voilà, tu vas en vacances.
Team.
Tu vas
Space Team. C'est bien.
Mais déjà, avec leur Android, ils n'ont pas réussi à le faire marcher. Mais c'est pas compatible, c'est nul. C'est bien qu'ils.
Peut-être que ça l'est, on n'a pas réussi. Tu sais. C'est de tard, il y avait les bières, tout ça. Tu connais pas Space Team ?
Non, mais. Pas encore, j'ai écouté.
Je connais pas Space
non,
Team.
J'ai écouté,
Space Team.
Mais c'est le truc dont vous parliez la dernière fois. Ah non, c'est Faster Than Light la dernière fois. Ce
ah ouais, mais Space Team, alors... c'est encore. Mais...
C'est la fois d'avant Space Team.
Tu me diras si je veux couper ou pas. Toi qui es dans la formation.
Oui.
Je pense que Space Team, c'est un excellent outil pour faire du serious game.
Du collaboratif.
Ouais, c'est clair.
Et Space Team est sorti en français. Elle a été mise à jour en français maintenant. Donc c'est un peu plus. Oh.
Et ouais. C'est sur Android ou sur...
Ouais, c'est sur les deux. C'est
l'équipe
gratuit.
De l'espace.
Ouais, c'est moins drôle.
Ah non, ça s'appelle genre Space Team. Mais après, les noms des noms des boutons est toujours aussi improbable.
On
mais...
dit toujours astéroïde. Roger, Roger, évite l'astéroïde.
Ouais, c'est un pur jeu de communication, mais sous pression.
Super drôle.
Mais c'est bon, hein, ça marche bien. Et alors à 4, moi je vous conseille, si vous pouvez, si je joue à 4.
Oui, mais ce n'est pas un jeu de société.
C'est un jeu collaboratif.
En termes de jeux de société, Crossmaster Arena en cours de développement sur mobile.
Oula, c'est une vieille news de l'épisode précédent. Je ne l'ai
pas. Je sais pas.
Oui,
ouais, je fais que lancement. Hein, moi, je, tu vois,
Ah oui, j'ai vu ça ce soir. Il prépare une version mobile, effectivement. Je ne sais pas quand est-ce que ça
pour
va arriver.
Pour la saison 5.
Voilà, on en parlera dans la saison 5.
C'est une version qui serait comment associé avec leur figurine ou alors c'est chose complètement.
Bah c'est comme crossmaster.com en fait tu peux aller jouer que sur PC enfin sur une version
ouais, ça existe online d'accord.
Ouais carrément ils ont lancé tout en même temps en fait
d'accord
c'est à la base c'est un MMORPG donc
non mais les wakfu
ouais,
oui
mais c'est dofu
oui.
Et
après ils ont fait dofu
mais là moi je pensais qu'il y avait vraiment le matos
en fait crossmaster c'est différent si Crossmaster, c'est le croisement de fous qu'ils ont mis sur un plateau pour se bastonner.
Voilà,
quoi.
Ça. Et puis,
un jeu d'escarmouche.
Un escarmouche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois, en fait, il y aura lien sur le site qui renvoie sur BGG. Et BGG, t'as des screenshots.
Mais c'est de la taille.
Ouais, mais moi, j'ai joué à Wakfu. J'ai joué peut-être, je sais pas, 30 minutes, une heure, tu vois, le temps d'essayer.
Ou
de fou
sur iPad, là, que vous avez fait, mais c'était sympa.
Non, le jeu, le MMORPG, quoi. Et ils ont juste repris le truc, et en fin de compte, ça change pas, quoi.
Au niveau des graphismes, c'est normal, ils vont pas s'emmerder à refaire.
Non, mais
après,
en fin de compte,
gameplay,
ils ont déjà
différent.
Tout pour faire, faire un jeu de Scaramouche, tu veux. Donc,
Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, puis après, il y aura Crossmaster Quest, mais ça...
Crossmaster Quest.
C'est un jeu de plateau, ça doit arriver pour SE. On en reparlera.
Oh.
Eh oui. Non, mais on aura l'occasion d'en reparler. Je sais pas sur quel support ce sera. Je pense que ce sera surtout, ils vont adapter.
Tout à l'heure, on vous parlait de l'excellentissime Twilight Struggle.
Ouais, et on avait parlé qu'ils avaient fait une campagne, je crois, P500 pour que les gens développent sur du Windows ou quelque chose comme ça, un Twilight Struggle.
Le truc qui avait moyennement marché.
Ouais, c'est tombé à l'eau. Carrément. Et ils avaient dit, on en reparlera plus. Sauf que c'était sans compter sur Playdeck. Playdeck qui est un éditeur de Philippe Portage absolument superbe de plein de jeux. Et du coup, ils vont se pencher sur le Twilight Struggle, donc ils feront une version.
C'est dégueulasse.
Comment ça?
Pourquoi?
Ils ont fait 10 dollars pour avoir la version Android, 15 dollars pour avoir la version iOS.
Mais je sais pas comment ils feront pour distribuer la version iOS. C'est parce qu'ils ont fait un Kickstarter. Et un Kickstarter, on en parlait tout à l'heure, là aussi, ils ont fait quand même 5 000 dollars premier jour. Pour une application,
non,
parce
c'est normal.
Bah bien sûr que c'est normal.
C'est un excellent jeu.
C'est un jeu qui est super attendu. Et si en plus il y a une IA dedans, qui est costaud, là je leur souhaite bon courage. Je suis le premier, quoi. Même à 8 euros, je prends. Hein.
Ouais, c'est là où tu te dis peut-être 100 000 dollars, c'est même pas cher payé pour un développement comme ça, quoi. Parce que...
Ils en sont à 314 000 dollars.
Il reste 3 jours.
Ils rentrent dans leurs frais.
Ils avaient demandé 50. Bah là, non, mais
50 000 dollars, ce qui est le vrai prix de l'application.
Ouais, ce qui est le vrai prix, je suis pas sûr. Mais on se demandait quand tu vois. Qui c'est c'était Christophe Bellinger avec son Dungeon Twister.
Ouais.
Et il avait demandé un truc ridicule, et en fin de compte, ça couvrait pas les frais. Ouais. Parce qu'en plus, il fallait que tu payes. Ouais. Là, en l'occurrence. Moi, ça me donne envie de pledger tout ça parce que.
Mais tu l'auras pareil sur les stores après. Ah, il va pledger en direct. Attention.
Non.
Non, mais moi, je pense qu'après. Je sais pas quels seraient les bonus. En plus, je vois pas comment ils vont donner.
Mais les stretch goals, c'est.
Tout ça pour les gens qui ont pledgé, comment est-ce qu'ils pourront récupérer
coupon, tu sais.
Ouais, les coupons, mais t'as le droit à en mettre que 100, quoi. Par chaque version, je vois pas comment tu peux donner des coupons, mais bon.
On sait bien, ils ont dépassé les 125 000 dollars, donc il y aura une.
C'est Playdeck, donc on est sur la
traduction française.
Par contre, ça arrivera sans doute pas avant juin l'année prochaine. D'ailleurs, cette année, on n'a pas eu le Playdeck de l'année en juin, comme d'autres années. L'année dernière, on a eu Agricola.
C'était en juin, Agricola.
L'année dernière,
ça
ouais.
Ça fait déjà un an. Ouais.
Il y a 2 ans, on avait eu Summoner Wars. Et à chaque fois, qui ont été des jeux très plébiscités, vraiment, qui ont été incroyables. Donc sans doute, Twilight Struggle, peut-être l'année prochaine, peut-être un peu plus, c'est long. Hein. Il y a du boulot. Mais c'était une belle nouvelle.
Bref, ça va être jouable en Bluetooth, cette histoire. C'est pas mal, non?
Bluetooth.
Il y a des... oui, c'est...
La technologie de 2014, quoi. <C'est>...
ouais, ok.
Et tu sais ce qu'ils font.
Non, mais c'est la guerre froide, quoi. Tout est dans le contexte.
Tu sais qu'ils font des ampoules Bluetooth qui diffusent de la musique.
C'est pas vrai.
Si, si.
Oh, la vache.
Donc, on sait jamais. Hein.
C'est pas parce que c'est éclairé, les ampoules.
Tu sais pas, you know nothing, Jon Snow. Bref. Donc ça, c'est chez Playdeck. Par contre, on peut parler aussi de Codito.
Codito, là, c'est l'inverse de Playdeck.
Ouais, c'est ça.
Oh, merde.
Alors, Codito, vous les connaissez pour
Pour plein de choses, notamment.
Fratitibris, Tikal, Medici. Ouais,
Medici.
Et Puerto Rico. Et donc, ils étaient pas mal. Ils étaient développeurs qui étaient un des studios qui étaient les mieux placés. Un peu en grand tout de Playdeck quand même, mais. De bonne qualité. Ils ont fait des jeux un peu avant. Et ils ont perdu, ils devaient faire le portage de Scroozy Edges, puis ils ont perdu la licence. Enfin bref, Check Games a repris les droits. Après, ils ont
Pourquoi
perdu. Je sais pas, c'est arrivé comme ça, peut-être qu'ils ont traîné, je sais pas. Enfin bref, ils ont perdu. Après, ils devaient faire Puerto Rico sur iPhone, Ravensburger l'a repris pour eux.
Non, mais ça, c'est une connerie, ça.
Ah, peu importe, mais enfin, c'est comme ça.
Attends.
Je suis d'accord.
Ou alors
la version iPad, je sais pas pourquoi ils font une version iPhone.
Pour que ce soit universel, mais.
Ouais, mais ils peuvent peut-être pas parce que.
Tu me diras, les nouveaux iPhones sont un peu plus gros, donc. Un peu plus longs. Ils sont pas plus gros, ils sont plus longs, donc.
Attends, on n'a pas vu les prochains.
Mais c'est comme Agricola sur iPhone, c'est une connerie, quoi.
Bah oui, mais du coup là, ils l'avaient pas fait, et voilà. Donc bref, Codito. Donc du coup, ils ont dit, on va arrêter de faire des portages de jeux parce que.
Parce que vous faites chier.
Parce que voilà, personne nous aime ou je sais pas. Et ils ont dit, on avait promis El Grande et Prince de Florence. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous noterez quand même que c'est des jeux qui, je pense que la moitié des auditeurs, moi, ne connaissent pas. Parce que c'est des jeux qui. C'est pas qu'ils sont passés sous le buzz, ceux-là, c'est juste qu'ils sont trop vieux. Ils font partie de la génération trop vieux.
Pourtant, c'est bien El Grande.
Bah, les Princes de Florence aussi.
Et. Oh,
je vois pas l'intérêt nécessairement.
On a oublié une news. super importante.
Ouais.
C'est,
je finis la mienne.
Oui, vas-y.
Pardon,
excusez-moi.
Mais le prince de Florence et le Grandet, je pense que je suis pas sûr de leur intérêt. Bref, donc du coup, ils ont décidé, ils ont passé le. Ils ont, ils ont dit qu'ils ne développeraient pas eux, mais ils l'ont passé à un autre studio. Donc,
c'est parce que tu n'aimes pas ça.
Si, si, bien sûr, j'aime le prince de Florence.
Non,
j'aime
Florence.
Quoi ? Non.
Quoi ?
Tu n'aimes pas Florence ?
Mais qui est Florence ?
Bref. Les méfaits de l'alcool. Codito, c'est fini, c'est bien dommage parce qu'en fait c'était un des deux gros studios qui faisait beaucoup de choses. Et...
Ouais, et ils bradaient régulièrement quand même leurs autres applis. Il n'y a que Puerto Rico qui bradait pas, mais même Brief History of the World le reste un portage correct. Je suis craqué une fois qu'il l'avait fait à 89 centimes, j'avais pris.
39, ouais.
Mais je serais curieux de voir les comptes. Enfin, là maintenant ils ont l'air de faire du Kickstarter, mais je serais curieux de voir les comptes quand même de Playdeck parce que je vois pas comment avec du Agricola.
Non, il rate. Oui.
Ouais, je pense que c'est pas... enfin, comment ils arrivent à être rentables, quoi.
Mais est-ce même Agricola,
quand il est sorti, ils ont quand même réussi à se positionner dans le top 25 les 2-3 premiers jours, mais ça suffit pas.
Bah,
vois,
non,
je crois
ouais.
qu'Eclipse, c'est pareil. Mais ça suffit pas, bien sûr que non. Alors,
bah,
je pense.
Eclipse, c'est pareil. Ouais. En termes de développement, ça doit nécessiter
un
truc de fou, quoi.
C'est du truc énorme. Alors, on en avait parlé avec Bruno Catala. Il disait, en fait, c'est dans ces cas-là, c'est chacun. Ils font moitié-moitié, quoi, sur le coût et donc après sur les gains, mais. C'est ridicule, hein, les gains, ils sont pas énormes. Hein.
Qu'est-ce qui.
Tu le sais sur Android, tu vas sur le Play Store et tu arrives à savoir combien de téléchargements
ah
il y a
oui.
eu.
Ah
tu
oui,
vois que c'est
ah
jamais
ouais.
énorme. Un Orochima X, c'est moins de 50 000 téléchargements. Hein. C'est pas énorme. Hein. 50 000.
Non, c'est pas beaucoup.
Sur BGA, il y a un jeu à Catala qui va arriver. Ou qui est arrivé.
Sur BGA ?
Oui.
Oui.
Sobek.
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 Ouais.
Et
ouais.
il disait que justement, il avait trouvé un arrangement
ouais.
avec
l'éditeur. Avec pas, l'éditeur. Pas avec Board Game ouais. Arena, mais avec l'éditeur.
Mais il gère très bien son travail.
Mais il a raison.
Quand je dis son travail,
ouais,
c'est
il a...
la valeur de son travail. Et,
je comprends tout à
ouais,
fait.
Son avis était intéressant dans l'épisode. Enfin, il y a 2-3 épisodes. Là,
ouais, alors, je vais faire juste une aparté avant de la news. Vous me ferez penser à la news qu'il fallait que je. C'est compliqué. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu. La ruée vers l'or, c'est l'Arizona. Tout le monde peut faire. Faire un jeu, il y a plein d'auteurs. Une fois qu'on va payer bien les auteurs, une fois qu'on va réduire le nombre de jeux qui sortent tous les ans, il va y avoir des morts, quoi. C'est-à-dire tout le monde va pas se lancer, il va y avoir de la casse auprès des éditeurs, il va y avoir de
ouais.
la casse auprès des auteurs, et
alors,
il y a des gens qui vont déchanter.
Actuellement, le monde de la BD, il est à l'inverse. Il y a de la casse très très forte au niveau des auteurs.
Ouais, ben, et parce qu'il y a des milliers, c'est pareil. Je pense qu'on
c'est pareil.
On va.
Les auteurs
va
ils sont tous
dans...
cassés, donc le marché de la BD va se casser pareil. Faute d'auteurs, le marché va se péter. Et ça sera pareil.
Comment ça, faute
Moi,
d'auteurs
Moi je préfère que tu aies un marché avec des auteurs qui soient bien rémunérés, à leur juste valeur, et que tu aies des jeux de qualité qui sortent, plutôt qu'à l'inverse, une surproduction.
Tu veux qu'on parle de Marc Lévy et après, c'est tout ça.
Ah non, mais Marc Lévy,
je compare pas Catala.
Non, mais.
Je compare pas Catala à Marc Lévy. Je dis que tu vas y avoir des blockbusters. Il va y avoir des mecs comme Marc Lévy ou comment elle s'appelle celle qui.
J.K. Rowling.
Non. Merde, l'autre, la belge.
Ah, Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb, tu vas avoir des. C'est des gens qui s'en sortent. Bah, tu vas avoir quelques ouais. Blockbusters et puis les autres ils vont
comme
pas s'en
la
sortir.
Musique.
Donc, il faut faire attention à ça aussi. Hein,
La différence de la BD, c'est que jusqu'à présent, a priori, certains auteurs de BD vivent, à essayer de vivre en tout cas de leur métier. À l'inverse du monde du jeu de société, où les auteurs ne vivent pas de toute façon de ça, ou vivotent et en tout cas tentent d'aller à un cran dessus. Peut-être que la différence viendra là entre les deux marchés.
Moi, je veux pas foutre ma merde, hein, mais voyez un peu ce qui se passe au niveau du jeu de rôle. Hein. Et voyez les circuits courts et voyez les gens qui sont à la fois auteurs et éditeurs. Enfin, bref, je dis ça, je dis rien. Medina va ressortir, et ça c'est une excellente nouvelle.
Oula, mais on est sorti des écrans.
Oui, j'avais oublié de vous en parler, donc je vous en parle. Alors Medina, c'est un jeu qui est totalement atypique, parce qu'en fin de compte, on va construire tous ensemble une ville, et en fait on va...
Comment tu scores les points, je ne me rappelle plus. C'est un ouais. Team Gluck, hein, je crois.
Ouais, l'éditeur. En fait, tu poses des... t'as 4 couleurs, je crois, de bâtiments. Mmh. Tout le monde construit les bâtiments en même temps, et quelqu'un va prendre possession des bâtiments. En disant, bah tiens, celui-là, il est assez grand pour que moi je le prenne. Et c'est ça qui est un petit peu une sorte de stop ou encore. Super intéressant, et ça va ressortir. Il faut que je remonte un petit peu dans le drive.
Je sais que c'est un jeu qui est encore beaucoup recherché par les gens qui connaissent.
Oui. Ouais. Je vends le mien 500 dollars.
Non, mais
sur,
je vois sur.
Sur Ocaseo.
Mais sur Ocaseo, j'en vois et ça part pas à 15 euros si tu veux.
Ouais,
c'est
non,
un
mais...
jeu qui part à plus de 40.
Mais c'est normal,
et
il y a
sans problème. Quoi.
Attends, mais il était très cher déjà à l'époque.
Oui, déjà à l'époque, on le payait plus de. Alors attention, c'est une époque où quand tu payais un jeu de 30 euros, tu le payais cher. C'est, ouais, c'était il y a 10 ans. Et. Mais là, ouais, donc tu vois, ils partent encore bien. Donc,
Stéphane Dora, ça va être chez White Goblin's Game. Ça va être un plateau double face. Et il y a plus de 200 morceaux de bâtiments en bois.
En bois.
Donc c'est aussi, on parlait de. Tu vois, un zombie cinéma mériterait une. Peut-être.
Une version bois.
Non. Mais tu vois, quand tu passes 2 heures à prendre des pièces et les mettre sur un plateau, ça a une vraie, un vrai intérêt d'avoir un matériel
agréable.
Un peu agréable. Là, Zombie Cinéma, tu prends les cartes, c'est tout moche, mais l'intérêt, elle est dans ce qu'on va raconter, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un très beau matériel. Bref. Excusez-moi pour l'aparté, mais je voulais quand même vous le dire, parce que si vous avez loupé Medina, c'est autant, tu vois, Prince de Florence, des choses comme ça. Elle grandait, j'aime beaucoup y jouer, mais c'est des jeux qui sont datés, qui sont d'un autre âge. Autant les Princes de Florence, autant Medina. Effectivement, c'est d'un autre âge, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même quelque chose de... Ça ressemble un peu, c'est un Stéphane Dora qui ressemble à du Reinhard Knizia, en fait. Et bon, bref.
Je me rappelle vaguement du jeu. Je sais que j'avais beaucoup aimé, je l'avais acheté, mais je l'ai revendu, malgré tout.
Ça, c'est une erreur, tu vois.
Ouais, je sais pas. La boîte était grosse au bout d'un moment pour faire des choix.
Oh là là.
Il est parti.
Dominion sur tablette, encore ? On en reparle ?
Ha ha ha.
Ouais, c'est un nouveau scoop. Il revient.
Un nouveau scoop.
Il revient. C'est le. Bah, c'est un peu. Il y a des jeux comme ça.
Non,
il...
oui, non, oui.
Et ben là,
non, 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 vraiment pas. Si, mais, si, mais. Ah, si, quand même.
Bah, là, Goku, donc, il avait foiré en beauté la version Dominion Online avec une version HTML5 qui marchait pas bien. Ils ont confié le développement a priori à un autre studio qui s'appelle Making Fun. Alors, j'ai regardé, Making Fun n'a pas fait d'autres portages de société, donc j'en sais rien. Et ils promettent dans l'année, alors ça me fait trop rire parce qu'on connaît les dérapages de calendrier, mais ils promettent dans l'année un Dominion qui devrait arriver donc sur tablette. Et comme il sera développé avec le framework Unity, ça vous parlera pas, mais c'est un framework qui permet de faire du développement assez facilement multiplateforme. Donc il y a de fortes chances que le Dominion il arrive rapidement sur iOS et Android à la fois. Donc voilà, comme quoi l'Android petit à petit ça perce. Alors après, quelle sera la qualité du Dominion ? Est-ce qu'on pourra jouer que en ligne ? Est-ce qu'on pourra jouer en solo contre une IA ? J'en sais rien. Au passage, pour ceux qui ont un Android, comme je rappelle que vous avez l'application Andromignon qui existe, qui est très laide, mais qui vous permet de jouer. On dirait elle est très fonctionnelle. Je sais pas si tu l'as pour.
Ouais, je l'ai, ouais. Mais justement, c'est pour
sur
ça.
C'est un fond noir avec des boutons, quoi. Ouais. C'est très laid, mais ça permet de jouer contre des IA, ça permet de jouer tout en anglais. Mais n'empêche, ça permet de faire des parties super rapidement de Dominion, de tester des stratégies et tout ça en 5 minutes.
Mais justement, c'est pour ça qu'avec Andromignon, puis il y avait une version de Dominion. Alors, je crois qu'avec la version de base à l'époque sur iOS, le mec qui avait sorti ça en solo, là. Et je me demandais si maintenant c'était pas trop tard pour sortir du Dominion sur tablette, enfin sur mobile, parce que les fans ils ont Andromignon et ça les dérange pas de jouer avec quelque chose de pas très beau, mais en tout cas ils peuvent tester des stratégies.
Et de et pas puis, complet, non,
ils avaient pas le droit.
Je crois qu'il manque un, il doit manquer une ou deux.
Ah, c'est quand même vachement complet en fait.
Ouais, c'est complet, parce qu'en fait, normalement, ils n'avaient plus le droit de la publier, je sais pas pourquoi.
Mais ils ont poursuivi jusqu'au dernier moment, et en fin de compte, ils se sont dit, on verra bien.
Y avait là, elle est peut-être plus disponible, mais en tout cas, tu pouvais encore la télécharger il y a quelques mois, et il manque juste une ou deux extensions.
Il doit manquer Guild et peut-être Dark Edge.
Il manque Dark Edge, ça, c'est sûr.
Ouais, donc il doit manquer. Et ouais, donc ils n'avaient plus les droits après, donc je sais pas. Il faut savoir même qu'il y avait une toute première extension, une toute première version de Dominion qui était jouable sur iPad avant tout ça.
On pouvait
jouer qu'avec
le
set de base qui était graphique, qui était très agréable.
Ouais.
Après, le problème c'est que voilà, c'était qu'avec la boîte de base, donc
c'est limité.
Quand tu
quoi.
Connais Dominion, t'es vite limité avec la boîte de base, t'as besoin des extensions, mais ça avait le mérite d'exister. Quoi.
Ouais, moi tu pouvais jouer online en plus, tu pouvais jouer contre des adversaires online et tout. Et du coup, je me dis. Finalement, peut-être, bien que le jeu soit bien, c'est peut-être maintenant trop tard parce que les nouveaux vont peut-être. Enfin voilà, ça va pas attirer du nouveau public sur Dominion. Et puis les hardcore fans de Dominion, de toute façon, ils ont déjà l'application qu'il faut pour y jouer.
Il y a toujours des gens qui découvrent. Je voyais encore sur Twitter aujourd'hui des gens qui disaient qu'ils faisaient leur première partie de pandémie ou etc. Je pense que Dominion c'est pareil. Il y a des gens qui découvrent encore aujourd'hui. Hein. J'ai des gens, ils ont que la boîte de base et ils me demandent encore qu'est-ce qu'ils peuvent acheter.
Ouais, mais
qui
sont prêts à payer genre 4-5 euros
pour
une appli Android pour jouer à Dominion. Là, tu vois, là c'est là où j'ai
mais
plus de
iOS,
mal.
Sur iOS, ils achèteront.
Sur iOS,
7-8 euros.
7-8 euros pour jouer 5 euros pour jouer sur Android. Avec toutes les extensions, t'en as
ah
pour
non,
200,
bah,
300, 400
euro
euros. Incroyable.
Bah oui, parce que de toute façon, si tu l'achètes, mon Dominion, ça te coûte du
coup. Non, mais on en est là, quoi. Tu vois, on veut pas claquer 3 euros parce que la boîte d'extension, elle fait.
Il y a 6 grosses boîtes. Dominion, c'est 6 grosses boîtes, donc 6 fois 4, 240 euros.
Ouais, c'est 300 euros
et
Dominion, je pense.
4 petites boîtes.
4 petites boîtes.
Ouais, je crois qu'il y a 4 petites boîtes. Ouais, ça fait 3-4 petites boîtes à 25 euros. Donc, t'as encore 100 euros à plus. Plus le pimp, si tu veux, les base cards là, qui sont faites par Rio Grande. Ce que j'ai fait parce que j'ai tellement usé mes cartes d'origine des deux Dominions, de Intrigue et Dominion de base. Non, finalement 5 euros, mais 8 euros, tu vois, c'est pas cher.
Et tu parlais des boîtes tout à l'heure, mais tout Dominion tient dans une grosse boîte et une petite boîte. Tout Dominion sleevé tient dans deux boîtes, une grosse et une petite.
Ouais, mais alors après, quand tu. Parce que moi, je joue à Dominion en prenant que deux boîtes. Je joue jamais en mélangeant n'importe une extension pour savourer extensions.
Tu mets les petites. Séparateurs qui vont bien, puis tu prends juste les cartes bleues. Non, ça, tu peux.
Ah ouais.
Ouais.
Bon, du coup, moi, c'est pas grave. T'es passé au bureau, mais t'as pas vu l'étagère
non,
derrière moi.
Vu,
mais,
ouais,
ils sont tous dedans. Faut tenir le.
Oui, mais c'est ça. Quand t'as le stock en dehors de ta maison, tout va toujours
ah
mieux.
Bah,
en fait.
Faudrait pas
t'as
que
toujours plus de place.
Faudrait pas que j'aille ramener chez moi. Ouais. Toutes les boîtes de Dominion, ça fait de la soin de la place. On arrête les écrans ?
Je pense. Sur cette digression, nous allons pouvoir. Passer à notre invité. C'est toi.
Mais est-ce qu'on t'a dit que tu rentrais à 3h ce matin, enfin du matin?
Non.
Alors on a jamais d'amis,
on te
si
le
tu
dit.
Veux.
Non, c'est
ouais.
Bon.
Ça, Amissa, on lui a proposé. Enfin, moi, je lui ai proposé.
Bah,
ça sera moins chaleureux
maintenant.
Que chez nous.
Hein?
Ça sera moins chaleureux que nous.
Oui, c'est sûr.
Il y aura pas raccourci. Qui es-tu, Yadibus ?
Je suis joueur de jeux de société depuis quelques années. Enfin, je jouais pas mal à Magic avant. Et puis les arrêts successifs et les reprises successives de Magic ont fait que, à un moment, je me suis posé des questions sur l'état de mon portefeuille. Et je commençais à jouer à des jeux qui étaient un peu moins chers. On m'a fait découvrir des jeux comme Citadel, des choses comme ça. Et puis après, j'ai laissé un petit peu tomber tout l'univers du jeu, sachant que je joue souvent en famille, à risque, voilà, c'est les jeux familiaux, quoi. Et puis, c'est un ami de ma femme qui m'a fait découvrir Les Aventuriers du Rail, quelques jeux de cartes de Friedman Fries, enfin les jeux allemands, là, Ich die Bonne, plein de petits jeux comme ça, là,
c'est ce
qui
prend.
Étaient sortis. Non, justement, pas le C'est ce qui prend, mais voilà, les Bonanza, les Ich die Bonne. Et puis, ça, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que plutôt que d'acheter des displays de cartes Magic, autant acheter des jeux de société.
Et des étagères.
Bah, écoute, la meilleure façon, c'est que tu m'accompagnes à Essen. Et donc je suis allé pour la première fois à Essen 2008. Et là j'ai pris une grosse grosse claque sur Essen parce que je me suis dit mais c'est complètement dingue. Tout ce qui peut... Et déjà 2008 c'était déjà bien après la révolution on va dire du jeu de société moderne. Et j'ai pris une grosse claque sur Essen 2008. Je suis revenu avec quelques jeux déjà. Et puis depuis j'essaie de jouer beaucoup.
Deux fois. Ça que je vais acheter.
Si un jeu est passé deux fois entre mes mains,
alors
il est rentable.
Là, j'aimerais bien, mais en fait, c'est vrai que voilà. Après, j'ai toutes les phases que les fans de jeux de société qu'on fréquente dans la proxy team ou sur Facebook ou sur Twitter peuvent avoir eu. C'est-à-dire que voilà, j'ai été consommateur, acheter le jeu sans même avoir vu les moindres critiques dessus. Et là, je suis plus dans une phase, tu vois, au bout de 5-6 ans maintenant, je suis plus dans une phase où je vais quand même réfléchir un petit peu à l'achat.
Le ludopathe responsable.
Voilà,
non,
ouais.
Tu réfléchis deux secondes, tu dis, bon,
est-ce que j'ai la place?
Ah putain, il en rejoint dans Twitter, bon, allez, j'achète.
Voilà, c'est ça. C'est... Bon, attends, je vais attendre la deuxième news quand même.
Non, mais
c'est vrai
pas.
Que maintenant, on se pose plus la question en se disant, bon, bah, j'ai déjà un jeu qui fait un peu pareil, je vais peut-être faire une partie de ce jeu-là avant de l'acheter. Voilà, je suis plus.
Ton dernier achat impulsif, c'était quand?
Bah, je te dis, depuis Essen, j'ai vraiment rien acheté là. Je me suis vraiment fixé.
Mais Essen, t'as fait des achats impulsifs.
Ouais, à Essen, j'ai beaucoup acheté. Ouais.
Ouais, mais tu peux pas faire autrement.
Ah, si. Bah, non, un peu beaucoup moins l'année dernière. On a acheté un peu.
Je vieillis.
Ça, c'est la prochaine phase.
Mais je pense que justement, voilà, c'est effectivement, c'est la prochaine phase, c'est d'acheter que 3-4 jeux, 3-4 jeux à Essen, et puis, mais beaucoup plus ciblés, quoi. Je pense que les jeux que vous avez achetés, vous, à Essen, on en avait parlé, je pense qu'ils sont quand même plus, voilà, vous savez que, même si vous n'y avez pas encore joué aujourd'hui, vous savez que vous y jouerez, que c'est une bonne pioche, quoi. Alors que moi, là, sur Essen de l'année dernière, il y a encore plein de jeux que j'ai achetés, voilà, ça n'a pas été un calvaire de faire deux parties, mais.
Allez, 6-1 ou 2.
Dis-nous le pire pic,
pour l'instant le pire pic, ouais, c'est vrai que c'est S-Evolution, quoi. On en a parlé.
Nous, alors, on a eu le malheur on a eu le malheur de le tester sur place, ou la chance, du coup on l'a pas acheté.
Tu peux dire à nos auditeurs, on en a pas parlé avant l'émission.
Ah non du tout,
on a pas préparé ce morceau là.
Non, mais c'est pas. Attention, c'est pas. On parlait du niveau des jeux actuels.
Mais pourquoi t'as acheté ça?
Non, mais
dans
non,
le niveau
le pitch
du.
Mais c'est ça, le pitch du jeu m'intéressait.
C'est pour ça qu'on a voulu le tester. Voilà,
petit jeu de cartes, évolution. Tu vois, le pitch du jeu, c'est un peu le pitch de Seven Wonders, quoi.
Hein,
c'est, bah, bien sûr, c'est un jeu de civilisation en trois quarts d'heure,
qui vous
avec
le jeu,
des cartes, etc.
Non,
bah,
mais c'est
moi, c'était le boss de boss sur Trick Track, sur je sais plus quel site où on voyait ça. Et donc, je l'ai acheté. Après, c'est pas un jeu mauvais, si tu veux. Voilà.
Non, mais il manque plein d'ajustements,
voilà,
pour
exactement.
En mettre, pour passer au
stade
au-dessus.
T'as l'impression que c'est
quoi.
Un peu un jeu Kickstarter, quoi.
Ouais,
il
est.
Manque quand même pas mal de choses.
L'auteur, il l'a édité maintenant, mais en fait, il aurait pu attendre un peu, il aurait pu aller laisser l'auto-édition, donc.
Et après, par contre, j'ai fait
deux parties.
J'ai fait deux parties. Et j'en ferai sans doute une troisième.
Mais tu ne le revendras pas, lui. Hein.
Mais tu vois, par exemple,
pas. Servir à allumer le barbecue la journée.
Là, j'arriverai pas à le revendre. Mais tu vois, par exemple, j'ai revendu. J'ai fait deux parties. C'est vrai, il se vendra pas. Je pense qu'il en reste dans les boutiques. Il se vendra pas.
J'espère que l'auteur n'écoute pas, parce qu'il aurait un souci sur la conscience.
Non, mais son autre jeu est plutôt pas mal, par contre. Il a fait un autre jeu où il revoit le jeu des osselets, la Os.
Non, mais c'est pas le même moteur, en fait, je crois.
Ah, bah en tout cas, c'est la même,
c'est même stand, ouais.
C'est la même maison d'édition, et ce jeu-là est plutôt une réussite, c'est plutôt drôle, quoi. Mais par contre, j'ai fait aussi des erreurs d'achat, tu vois. Caverna, par exemple.
On a tous fait des erreurs d'achat.
C'est pas du
d'achat.
Tout pour moi, quoi. Caverna, c'est.
Ça, tu peux acheter la grosse boîte lourde.
Ouais, je l'ai
cher.
Revendu, ouais. C'est que, ouais, effectivement, là, demain, je rachèterai plus de Rosenberg, quoi, ça, c'est sûr, quoi. Et du coup, ouais, je me poserai plus de questions.
Même pas un Agricola Deluxe?
Ah non.
Anniversary.
En fait, c'est le même adage qu'il y a très longtemps, c'est connais-toi toi-même, quoi.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas pouvoir le sortir
c'est
avec tes.
Bah,
avec
tu te fais quand même avoir des fois, même nous, t'as beau te connaître, tu te fais encore avoir. Quoi.
Non, mais parce que t'es compulsif. Il y a des fois, t'as envie d'un jeu et tu te dis, tu vois, j'ai acheté Firefly.
Ouais.
À Essen, dernier, je voulais acheter Firefly, je suis allé sur le stand. On m'a dit, ouais, ils vont le franciser. Alors, tu vois, je me suis dit. Cool, je me maîtrise, je vais pas l'acheter. Ça va être en français, comme ça je pourrais plus le sortir. Et puis là, bah voilà, quoi, j'ai craqué.
Avec les soldes.
Pardon ?
T'as acheté avec les soldes.
Je rigole.
Ah, dommage.
Je suis allé dans ma boutique préférée, j'ai fait une extension pour Firefly. Ah, mais vous avez Firefly en fait ?
je vais prendre les deux, l'extension et le jeu.
Non, j'ai pris que le jeu, j'attends d'y jouer.
95 euros.
et puis j'ai acheté Emilia Domain aussi.
Ah, j'aurais pensé qu'il était en solde en fait, mais j'ai pas regardé.
Non, ils font. Je ne sais pas s'ils font des jeux chez Trollune. Des soldes chez Trollune.
Donc voilà.
Donc, alors,
tu es
un joueur.
Voilà,
mais tu habites Nantes.
J'habite Nantes et je travaille la moitié de la semaine sur Paris.
En banlieue nantaise.
Ça me rappelle quelqu'un.
C'est un prolongement de la banlieue nantaise, en fait.
Ah bah, c'est maintenant avec le TGV.
Et donc, du coup, comme ma femme est peu joueuse, voire pas joueuse du tout. J'essaie de jouer avec des amis à moi avec qui je jouais déjà avant quand j'habitais en région parisienne le lundi soir et le mardi soir, on essaie de se voir comme tu le sais avec la Proxy Team on essaie de sortir parfois un petit jeu, quoi.
Ah, c'est pour ça que tu as du mal à jouer à deux parties à tous tes jeux SN. Tu joues pas à l'occasion le week-end
et après j'essaie de jouer. Bah, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, c'est le vendredi soir en fait, ils font deux soirées jeux par semaine.
Alors, le nom de la soirée, excuse-moi.
Chez les ludopathes nantais.
Les
ludopathes nantais. Ouais, c'est les ludopathes. Ils font deux soirées par semaine, le mardi et le vendredi. Il y a,
À
la maison des jeux de Nantes. C'est en plein centre-ville.
Bah, je suis passé chez eux. Quand je suis allé à Nantes, je suis passé à Nantes en avril. J'ai fait une soirée là-bas. Mais juste organisé comme
ça. Ouais.
Il paraît qu'ils sont pas sympas.
Bah écoute, nous en tout, moi en tout cas, j'ai jamais eu de soucis c'est avec, pas avec les ludopathes.
C'est pas l'impression qu'ils m'ont donné non plus.
Voilà, donc bon, c'est ça vraiment. Va, non, t'es super bien accueilli. Je pense que d'ailleurs Krilin viendra un de ces quatre avec moi faire une partie de jeu. Et ce qui est vachement bien, c'est que il y a des gens qui jouent aux jeux de société, j'imagine comme vous depuis maintenant plus de 10 ans et qui ressortent souvent des jeux qui ont plus de 10 ans.
Parce qu'à la maison des jeux, en fait, il y a deux assos qui se partagent le local.
Ouais, là, il y en a plus, en fait. Plus. Ouais.
Donc, parce que c'était marrant, parce que quand j'y suis allé, t'as des étagères à l'entrée avec des jeux, et c'est justement des jeux, mais qui ont plus de 10 ans. C'est tout bizarre de voir ces jeux-là présentés, et t'as l'impression qu'ils sont mis en avant.
Ouais, alors ça, ces jeux-là, c'est les jeux de la maison des jeux, donc qu'on utilise assez peu chez les ludopathes. Oui, mais par contre, il y a une armoire des ludopathes où là, tu retrouves
certains de ces jeux-là,
les vieux Knizia, les premiers Knizia. Moi, j'ai pas du tout connu ça. J'ai commencé à jouer, tu vois, en 2008-2009.
Bah vas-y. Hein.
Et en fait, il y a plein de trucs géniaux.
Si les jeux d'enchères font pas peur, mais jouer à Euphrate et Tigris.
Ouais, ça j'ai joué. Après, c'est sorti sur iOS et tout. Mais là, tu vois, on m'a fait découvrir Amun-Re,
Ra, Paradia,
Amun-Re, etc. C'est vraiment génial. Et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant j'aime bien aussi les jeux qui sont peut-être un peu plus épurés. On a joué au Agricola, on a joué au Caverna, et tu vois par exemple un jeu comme Prosperity où il y a 3 mécanismes, peut-être que c'est un Knizia d'il y a 15 ans, hein. Mais en tout cas, on aime vachement parce que ça nous change du côté un peu
empire de Bruxelles.
Là, maintenant, c'en est trop. Mais en fait, c'est ça, t'es chronique quand tu mets tes jeux que tu aimes bien. Notamment Nefertiti, j'ai eu acheté après ta chronique ou ça. En fait, et puis quand je joue au jeu, mais je me dis, mais en fait, on retrouve l'esprit qu'on avait dans les jeux allemands au début des années 2000, donc les Knizia, etc. Et ouais, donc tu peux y aller, hein. tu seras forcément.
Ah bah là, j'ai jamais été déçu. Il y en a un autre qu'on m'a fait essayer, c'est.
Midici, c'est exceptionnel.
Ouais, celui-là, on y a joué. Et puis celui, alors c'est Colnan, je sais plus quoi, là, où tu dois monter des murailles, faire des territoires avec des petites murailles en plastique. C'est tout con.
Kingdom.
C'est... Ouais, je sais plus si c'est sorti. Il faudrait que je le retrouve. Je vais le retrouver après.
Kingdom,
ça me dirait comme ça. Ouais, peut-être.
C'est en allemand. Alors peut-être en anglais, ouais, c'est Kingdom.
C'est un truc comme ça. Non. Mais c'est effectivement, c'est le Kingdom, c'est la réédition. Ouais.
D'accord, ouais. Bah, c'est des jeux qui ont 3 mécanismes, quoi, qui en ont pas 50 et qui marchent super bien. Qui marchent vraiment super bien.
C'est la belle époque.
Après, nous, on aime, tu vois, on parlait de Bruxelles. Bruxelles, c'est un jeu auquel on joue. Là, on doit être à 3, 4, 5 parties. On a envie d'y rejouer. Mais aussi, parfois, ça fait du bien de jouer un jeu.
Non, mais c'est trop. Voilà, c'est des trucs. Ça commence à être trop compliqué.
Et donc, voilà, je joue à Nantes dans cette assos, sachant que le vendredi soir, au moins, parce que le mardi, je suis sur Paris. Le vendredi soir, il y a aussi d'autres associations qui occupent la maison des jeux. Une association plus de figurines. Et puis une association de jeux de société étudiante. Donc là, c'est pas le même public, mais ils jouent aussi aux jeux de société.
Il y a la place sur place.
Ouais, c'est une grande maison. Il y a plein de tables, plein de salles. Et c'est vraiment, du coup, c'est le vendredi soir, en cumulant toutes les assos, on doit être peut-être 50, 60, 70 partager l'espace, quoi. Et juste sur les ludopathes, c'est 20, 30 personnes, ça dépend des soirées, quoi.
Pas de jeu de rôle ?
Non, pas de jeu de rôle, non. J'ai essayé une fois, ça m'a pas...
Mais non, mais il y a...
L'asso, il y en a peur.
L'association,
pardon. La dernière asso, c'est justement une asso de jeu de rôle. Mais je sais pas si c'est cette asso-là qui est l'asso étudiante ou pas. Mais il y a aussi une asso de jeu de rôle où ils jouent là-dessus. Quoi. Mais Nantes, ouais, au niveau des jeux, ça bouge pas mal. J'ai appris qu'il y avait des bars. Il y a deux bars qui font des soirées-jeux. Il y a le Game Over et puis le Chat Noir. Et puis, il y a le festival de Saint-Herblain aussi, qui est finalement la banlieue de Nantes, quoi. Et puis Parthenay, qui est pas si loin que ça non plus, quoi. Donc
qui commence pas longtemps.
Voilà. Donc, si on veut jouer à Nantes, il y a vraiment pas mal de coins. Et puis il y a pas mal de festivals aussi qui se montent sur la Vendée, qui est pas très loin. En Bretagne, c'est pas très loin non plus. Je sais qu'à l'automne sur Rennes, il y a un week-end jeu là qui est organisé tous les ans. Donc l'Ouest, c'est plutôt une terre qui joue, quoi.
En fait, partout ça joue moins.
Maintenant ça joue. Ça joue
c'est partout, quoi. Partout, tu vois les succès de Paris Ludique, de Ludinor qui deviennent année après année des festivals incontournables parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse. Il n'y a pas de gros festival comme ça à Nantes, hein.
À Nantes même, pas que je connaisse, ouais. Mais tu vois, il y a Saint-Herblain juste
à
côté.
C'est Saint-Herblain, c'est vrai.
Après, Saint-Herblain, ça reste. Moi, j'étais étonné parce que je connaissais assez peu les festivals français du jeu de société. J'étais étonné. Alors, la seule comparaison que j'avais, c'était Essen. Donc, Saint-Herblain, je me suis dit, oula, c'est pas la même envergure.
Déjà, si tu vas déjà à Cannes, tu vas déjà voir la différence qui est tellement majeure entre une
équipe. Je suis pas encore allé à Cannes.
Tu verras déjà le décalage avec Essen, c'est sûr.
Et c'est sûr que Saint-Herblain, c'est différent. C'est pas. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus artisanal, entre guillemets. Mais par contre, tu découvres aussi plus de jeux qu'à Essen, je pense. Parce que il y a du temps, le jeu est mis en avant différemment. J'ai l'impression que les auteurs qui font le déplacement, et je rejoins Bruno Catala quand il disait ça doit pas être très simple de te déplacer tous les week-ends, mais les auteurs qui font le déplacement, ils trouvent aussi, j'imagine, leur compte parce que ils sont vraiment là pour le coup très proche du public,
contact,
Et c'est pas juste faire la queue pour avoir une dédicace dans la boîte, quoi. C'est tu peux prendre le temps de discuter mécanisme, édition, etc. Quoi.
Oui, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Excuse-moi.
Oui, voilà. Bon, après, c'est...
Tu parlais de Kingdoms de Knizia, ce jeu où on met des plus et des moins dans des colonnes et des lignes. Ou alors, est-ce que tu parlais de Love and Earth?
Ah, Love and Earth, voilà, c'est ça. C'est Tobert, c'est Love and Earth, voilà. Et il est très très bon aussi, celui-là.
Ah, puis ça, celui-là, ça pour Olivier, ça backstab.
Ah ouais.
Là, tu peux avoir des alliances qui se. Enfin, des alliances joueurs peuvent s'allier entre eux et craquer à un moment. Oui, c'était bien ça. Il était sorti en français, c'était illicite à l'époque, hein, Richard Cœur de Lyon, on l'avait appelé.
Et effectivement, quand tu pioches dans les jeux un peu plus anciens, après, faut qu'il y ait des gens qui te guident un petit peu, voilà, des gens qui connaissent un peu ces jeux-là, et les ludopathes en font partie. Après, j'ai des collègues de travail qui bossent, qui connaissent un petit peu les vieux jeux, on va dire. Là, ils m'ont fait essayer Mickey Rhinos, tu vois, la semaine dernière, et j'ai trouvé ça génial.
C'est marrant de dire que c'est un vieux jeu.
Il est pas trouvable.
C'est quoi,
et
c'est
peut-être 2006.
Ouais, je le disais en 2006.
En tout cas, vieux jeu, ça veut dire jeux qui sont sortis avant que je me mette à jouer. Donc avant 2008, on va dire. Et en fait, Mickey Rhinos, c'est plus trouvable. Ce qui est étonnant, parce que c'est un jeu très,
ouais, mais
très bon.
On en avait dit, hein, c'est les jeux, ils ont une durée de vie qui fait qu'ils durent 3 ans, et puis après, ça disparaît, quoi.
Et tu vois, c'est sur cette réflexion-là où je me suis dit, bah, par rapport au podcast, à la Proxy Team, etc., il y a peut-être quelque chose à faire sur les jeux qui font pas le buzz, qui passent en dessous, comme on dit, en dessous du radar. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, on avait discuté pour faire une chronique là-dessus. Et c'est là où j'en viens au monde des médias ludiques avec cette chronique.
Bientôt tu vas te lancer sur Ludovox alors.
Oh non, je pense pas quand même, je pense pas, après faut avoir le temps, hein,
c'est sûr. En fait, il y a un autre truc, c'est que nous, quand on suit tout le temps les jeux, etc., c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont sortis il y a un moment, qu'on connaît, qu'on a beaucoup joué, et on va pas penser à les remettre en avant parce que on y a joué, je sais pas, ils ont pas, puis le fait qu'on veut toujours parler de l'actualité, ça aide pas en fait.
Ouais,
on est dans une fuite en avant, mais en plus, on est tenu par le podcast à le faire. Ça encourage pas. Mais j'ai tendance à m'acheter beaucoup de nouveautés.
Et donc, puisqu'on dérive peu à peu sur le podcast, peut-être parler de nous un tout petit peu.
Ouais, je peux juste faire un break.
Alors, très rapidement, on voulait aussi vous parler de la saison 5. La saison 5, on a de grandes idées. On a fait beaucoup évoluer le podcast cette année. Merci Yannibus, merci Alexis et Courju, merci à Isobretnik et à sa chronique. Merci encore à Dédé qui nous suit depuis très longtemps, enfin qui nous accompagne depuis très longtemps. Merci à Fenduel qui maintenant tend le micro à défaut de le tenir. Puisqu'il a fait l'interview de Marilyn de
Ludovox, il l'a fait.
Merci à tous ceux qui
TSR qui nous en envoie de temps en temps, un clic un jeu, qu'un Evan qu'on voit un peu moins.
Alors voilà, mais qui m'a dit qu'il était un peu occupé, mais qu'il allait reprendre. Et c'est surtout ce qui a changé en fait cette année, c'est que non seulement on a eu des interventions, mais aussi on a eu la couverture de Paris Ludique. La couverture de Cannes, la couverture de d'autres salons, on n'en est pas forcément. Donc il va falloir qu'on s'organise autour de
en
ça.
En fait, Proxy Jeux, c'est pas le podcast de l'actualité du jeu de société, c'est le podcast qui donne envie aux autres aussi de prendre leur micro. J'ai trouvé ça cette année, c'est impressionnant à quelle vitesse, rapidement, les gens spontanément ont envoyé leurs chroniques, se sont proposés.
À quelle vitesse,
toi, Yann. Non, mais rapidement, en quelques mois, tout le monde voulait nous envoyer. Après, tu dis oulala, mais attends, faut gérer après.
Il faut qu'on joue du pipeau et qu'on les charme aussi, mais.
Bah non, mais regarde, on a une dizaine de chroniqueurs minimum.
Oui.
Et
alors,
en plus,
alors je joue du
et
typo,
en plus, ouais, voilà. Et en plus sur les salons, on fait pas Paris ludique, on n'a pas besoin d'y aller. En fait, on se posait la question de savoir s'il fallait être plus présent sur les salons, pas besoin. Il y a toujours quelqu'un qui est sur place.
Ouais, c'est super travail, surtout encore une fois, Yvon qui a pris le lead le samedi et qui nous a amené du contenu qu'on n'aurait pas espéré en fait.
Bah ouais.
Et ça, c'est super intéressant parce que on a des connaissances, on a des gens qu'on aime bien ou mieux. Ou avec lesquels on est plus à l'aise, et en fin de compte le fait d'être plus nombreux, ça permet aussi d'avoir une diversité dans ce
et d'interviewer des gens improbables comme voilà. Hirschfeld.
Donc l'année prochaine on va se réorganiser encore, on essaie d'être un peu plus court, c'est-à-dire qu'on essaie de faire on a en tête de redevenir hebdomadaire. Ou au moins de limiter
une heure.
Voilà, de limiter chaque podcast à une heure, et donc bah forcément vous en aurez 6 ou 7 par mois quoi. Voilà. Déjà là on voit qu'il y a des choses à arranger, mais bon, on va s'organiser autour de ça. Donc du changement pour la saison 5.
Et on voulait faire une phase un peu plus introduction, revenir en fait aux prémices de procédure.
Ouais, donc on a encore.
On révèle un podcast qui parlerait du jeu pour tout le monde, que ce soit novice comme. Pas comme joueur comme nous, en fait, acharné.
Et c'est compliqué.
Et c'est difficile, ouais. Donc on rêve de revenir, de faire au moins peut-être dans les épisodes 1 qui serait dédié vraiment aux bases.
Donc j'espère qu'on retrouvera...
Dit que sans les digressions, un épisode, ça revient à 15 minutes.
C'est ça.
C'est ouais, ça, bah, c'est quand on dit bonjour et merci à tous les donateurs du projet de Patreon.
Balance,
et
balance, qu'elle dit
bientôt.
Ça.
À bientôt.
C'est Yota qui dit ça.
Bravo.
Bon, on peut rien dire, c'était le premier sur
la
chatroom.
Il a pas tout à fait.
Ouais.
Oh non, non.
Ouais, mais non, mais attends.
Et
il est resté
15 minutes.
On peut dire, il a raison, mais c'est les digressions qui sont intéressantes.
Ah ouais,
oui, parce
vrai.
Qu'on l'a attaché avec les menottes de.
Fatal Rendez-vous.
C'est pour ça. Il est... Bref, voilà, on cherche. C'est aussi. Tu posais la question de savoir ce que ça faisait d'avoir des patrons. Bah, c'est ouais. Ça aussi. On essaie de donner encore plus. Enfin, d'écouter ce qu'on nous dit et puis d'évoluer et puis voilà, puis c'est chouette.
Les Patreons nous disent pas grand chose, voilà. Nous disent continuez comme ça.
Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai oublié tout à l'heure, on va écouter Iso Bretnik qui a fait une superbe chronique pour l'épisode rose, qui nous parle de la place des femmes non seulement dans le jeu de société mais la place des femmes dans la société japonaise, la place de l'homme dans la famille japonaise, enfin un truc...
Qui n'est pas toujours plus enviable.
Non. Non, loin de là, ouais. c'est très très compliqué, et je trouve qu'il a su vraiment être mesuré, et de ne pas tomber dans le cliché, et d'arriver à trouver le ton juste, et la composition juste dans son analyse pour parler à la fois... de ces jeunes japonais qui vont dans les festivals.
comme des vals.
Quoi, un corbeau
des
corbeaux. Qui vont dans les festivals pour aller acheter des jeux de société ou avec des jeunes femmes enculottées à peine majeures. D'ailleurs, oui, sur la page Facebook de Proxy Jeux, j'ai mis du Barbarossa. En image de couverture, c'est fait exprès. Je l'aurais peut-être pas mis si on avait, si on était arrivé à la conclusion que l'épisode rose était sexiste. Je l'aurais certainement pas fait. Mais là, la conclusion de l'épisode rose étant, on est quand même dans un.
J'ai pas trouvé quoi mettre en image à la une parce que j'avais déjà utilisé les licornes dans le A. Voilà. Pour le B, j'ai vu que t'as mis Barbarossa, ceci dit.
Et donc, il arrive à expliquer bien les jeunes hommes qui aiment bien les jeunes filles en fleurs, et puis la place de l'homme marié dans le couple et tout ça. Donc c'est super intéressant. Si vous l'avez pas fait, écoutez-le. Merci encore
ça
à toutes celles.
Ça a été publicité sur le site, hein, par les commentaires.
Ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est une pépite quoi.
Apprécié,
Enfin, tous autant qu'ils sont, que ce soit Dédé ou Alexis ou enfin, c'est aussi ce que je salue, c'est la qualité du travail de tout le monde. Parce qu'en fin de compte.
Non, parce qu'il donne envie d'acheter des jeux. C'est court comme chronique, mais ça
donne
aussi envie.
C'est là que tu vois que c'est réussi. Donc,
bah oui.
Iso Bretnik a interviewé Anton Beza lors de son passage au Japon, et on va écouter ça.
Et on en parlait dans l'épisode 55.
Maintenant, il faut aller au Japon pour interviewer Antoine Beza. Il faut le suivre jusqu'au Japon pour réussir à l'interviewer.
Ah, mais c'est une source d'inspiration pour Antoine, le Japon.
Ouais.
Bonjour Olivier, bonjour Jérémy et bonjour à tous. Aujourd'hui, une chronique un peu spéciale et surtout très longue, puisqu'elle dure une bonne vingtaine de minutes. J'essaye de concurrencer l'équipe de Do It Yourself, fais-le toi-même. Enfin bref, j'ai eu la chance le 9 avril 2014 de rencontrer Antoine Boza, qui était venu faire une séance de dédicace au Café Meeple, qui est un petit bar à jeux à Kyoto, un bar à jeux où j'essaye d'aller le plus souvent possible, et où le propriétaire, Nate, et moi-même avons décidé d'organiser cette rencontre et cette séance de dédicace qui a duré toute la matinée jusqu'à à peu près 14h. Donc le Café Meeple est un café que j'aime beaucoup, un espace assez petit, tenu par un Américain du nom de Nate. J'ai appris via Twitter qu'Antoine allait passer quelques semaines au Japon pour un voyage touristique, et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de lui proposer de participer à cette séance et de venir rencontrer des joueurs japonais qui aiment en général ces jeux. Donc il a accepté avec une grande gentillesse cette invitation et il a passé toute la matinée à faire des dédicaces pour les joueurs qui s'étaient déplacés ce jour-là. Alors, dans mon interview, qui sera surtout recentrée sur le Japon et la relation qu'Antoine Boza a avec le Japon, je pose des questions sur son inspiration, pourquoi il a décidé de créer des jeux sur des thématiques japonaises, et vous connaissez sans doute déjà très bien des jeux comme Takenoko, ou encore Tokaido, ou encore le futur projet Samurai Spirit, j'espère que c'est Spirit et pas Spirits, qui devrait bientôt arriver sur les étals d'ici un an, je pense, un peu moins peut-être. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique sur un tout autre sujet. Bonne écoute. Salut Antoine.
Salut.
Ça fait bizarre de passer en français d'un coup.
Ouais, on change de langue, c'est bien, faut s'habituer.
Petite question, puisque en général ma chronique concerne plutôt le Japon et les jeux japonais. Je vais reprendre quelques questions des discussions que tu as eues avec Eric à propos des thèmes asiatiques dans tes jeux. Est-ce que tu peux me rappeler l'anecdote à propos de la création de Takenoko ?
Alors Takenoko, tout est parti d'une photo que ma femme a prise de moi lors de notre premier voyage au Japon. C'était en décembre 2003 très précisément. Ouais. On était à Tokyo et on est allé visiter le zoo de Ueno. Mm-hmm. Qui est très bien d'ailleurs, si vous avez des enfants, je le conseille.
Oui.
On va y retourner avec les enfants d'ailleurs. Et à l'entrée du zoo, en fait, il y a une statue assez rigolote, hein, la japonaise, avec un gros panda et un petit panda, et au milieu de bambou, alors façon un peu rigolo, avec des gros yeux, gros sourire, là, bien. Et du coup, j'ai fait une photo, ma femme a pris une photo à côté de ces deux pandas. Et en rentrant en France en janvier, du coup, en regardant les photos, je suis retombé sur cette photo, et c'est là que je me suis dit, bah tiens, c'est rigolo, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un jeu où il y aurait un grand panda, un petit panda, ouais. Il serait dans une bambouserie, il mangerait des bambous, et peut-être ça serait sympa, je vois bien les bambous pousser en 3D, ça serait sympa de voir la bambouserie qui pousse au fur et à mesure, les pandas qui mangent les bambous, et il faut arriver à gérer les deux, et ça pousse, et les pandas mangent. Et le prototype est parti de cette idée-là, et donc de la photo que j'ai prise à Ueno, donc comme quoi une idée de jeu, ça peut partir vraiment de n'importe quoi. Ouais. Et voilà, et dans le prototype, pour continuer l'anecdote, il y a très longtemps eu deux pandas en fait, un gros et un petit, qui n'avaient pas tout à fait le même déplacement et le même appétit. Et bon, finalement, il en est resté qu'un parce que le design a fait qu'il a fallu épurer, mais voilà, c'était vraiment partie de la photo dans le sens où très longtemps, il y a même eu le gros et le petit panda de la statue de Ueno. La photo doit être quelque part sur mon site d'ailleurs, j'avais reposté à un endroit, donc elle doit être retrouvable. Voilà, j'avais 10 ans de moins.
Mais... Et tu envisages pas un jour de réintégrer ce petit panda dans le jeu ou... Parce qu'il n'y a pas eu d'extension pour Takenoko, est-ce que c'est un projet?
Non,
que tu
on me l'a demandé, on me le demande encore et j'ai pas la bonne idée pour faire une extension, donc si ça arrive un jour, j'ai peur que ce soit un peu tard maintenant parce que le jeu commence à être un peu vieux. Voilà, moi je veux bien faire une extension à partir du moment où je suis sûr d'avoir une idée qui va vraiment enrichir le jeu en termes de gameplay et pas juste rajouter, tu vois, des cartes, du matériel ou des trucs que j'estime pas forcément pertinents. Et c'est vrai que pour Takenoko, j'ai pas eu cette idée là. Et en même temps, c'est des jeux quand même plutôt familiaux, donc les extensions c'est quand même un truc de gamer quoi. Les gens qui achètent des extensions, c'est quand même les gamers quoi. Donc à quel moment faire une extension c'est pertinent, tu vois, sur, euh, sur Seven Wonders, bon, c'est pertinent parce qu'il y a des gens qui jouent beaucoup, donc l'extension, ils sont contents, ça renouvelle. Tu vois, même sur Tokaido, j'étais pas du tout chaud au début pour faire l'extension.
Oui.
Et c'est à force que l'éditeur, Crossroads, c'est à force que l'éditeur m'embête et me propose des trucs qui me plaisaient pas du tout pour faire l'extension que j'ai eu la bonne idée. Et là, c'était pertinent parce que à la fois le jeu était vraiment très simple et du coup, la plupart des gamers s'y retrouvaient pas parce qu'il était vraiment trop simple en termes de stratégie. Et du coup, ce qu'on a réussi à faire, par exemple là, c'est que les gens qui aiment jouer et qui ont l'habitude de jouer, du coup, s'y retrouvent avec l'extension. Donc, j'ai vraiment l'impression que tu vois qu'elle a apporté quelque chose dans le sens où il y a des gens qui me disent ouais, mais on n'y joue pas parce que là, c'est vraiment trop léger pour nous et voilà, c'est bien pour jouer avec Tati et tout. Et ils disent ah, avec l'extension, ben non, ouais, on y joue, on y prend vraiment du plaisir. Donc là, c'est intéressant quoi. Takenoko, tu vois, j'ai pas trouvé cette idée où à la fois ça va apporter quelque chose qui est pas juste bah, des nouveaux objectifs, tu vois, des trucs bateaux, voilà, ouais, ça m'intéresse pas à faire une extension pour ça. Donc là, j'ai pas trouvé encore la bonne idée, même si j'ai pensé au petit panda, si j'ai pensé à plein de trucs, à des histoires de floraison et tout. Mais j'ai pas trouvé encore le truc qui me plaît vraiment, qui me donne envie de me remettre dans Takenoko 5 ans après et d'y retravailler, tu vois.
Ouais, et justement, à propos de Tokaido, moi, c'est vrai que j'ai eu la même impression, parce qu'on, comme je te disais, on joue beaucoup à deux. Et j'ai l'impression que le jeu, peut-être que je me trompe, parce que j'ai pas essayé le jeu à 3 ou 4 joueurs. Est-ce que il y a une configuration stratégique à partir d'un certain nombre de joueurs, ou parce que à deux, j'avoue que la dimension stratégique me paraissait pas si évidente que dans le jeu.
Ouais.
Alors, j'ai recraqué parce qu'on m'a dit que j'ai lu beaucoup que Crossroads, l'extension, apportait beaucoup au jeu, et avec la campagne Kickstarter qui a été très 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 suivie et avec un succès phénoménal. Comment dire? En termes de... Je me suis perdu dans ma question. En termes de gameplay, qu'est-ce que Crossroads apporte par rapport au jeu de base pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'extension comme moi, par exemple?
Disons que dans Tokaido, la règle est vraiment très simple. C'est que tu fais un déplacement et tu résous une action. Donc, en termes de choix, c'est pas très touffu dans la mesure où tu as un certain nombre de cases libres et tu n'en as pas 500.
Oui.
Et donc, ce que reprochent souvent les joueurs au jeu de base, c'est que voilà, ils ont un peu l'impression de jouer de manière automatique. Mais c'est aussi une impression de joueur, dans le sens où forcément quand tu as l'habitude de jouer à plein de jeux, c'est un choix qui pour toi devient évident. Et souvent les joueurs m'ont dit, le retour que j'ai lu sur internet, c'est ouais, mais Crossroads aurait dû être dans le jeu de base en fait.
D'accord.
Ce à quoi je réponds, bah non, parce que si tu mets Crossroads dans le jeu de base, je peux plus faire jouer Tokaido aux gens à qui Tokaido est destiné, à savoir à des gens qui sont, voilà, qui comme vous vont pas jouer 3 fois par semaine, ouais, ou vont pas jouer à Dominion, tu vois, voilà. Tokaido, c'est un jeu que j'ai playtesté avec de la famille, avec des gens qui jouent très peu et qui a déjà le niveau stratégique qui pour ces gens-là, à mon avis, suffit quoi. Et c'est pour ça que je dis, voilà, non, la Crossroads n'est pas dans la boîte de base, parce que si je l'avais tout mis d'un coup, j'aurais perdu ce public-là, qui est mon public cible dans ce jeu.
D'accord.
Après, je comprends très bien que des gens s'amusent pas du tout à Tokaido. Quand tu as l'habitude de jouer, c'est trop léger. Donc, et je suis content qu'ils trouvent leur intérêt, pas tous, hein, mais que certains du coup disent ah, avec Crossroads, ouais, du coup, ça rajoute vraiment de la stratégie. Je peux rentrer dans les détails si tu veux que je t'explique un peu. Hein. Mais grosso modo, donc à Tokaido, tu avances et tu fais une action sur la case d'arrivée. Crossroads, pour chaque action possible, te propose une alternative. Donc en plus de choisir sur quelle case tu vas, tu rajoutes le choix de. En plus, sur la case, maintenant, il y a 2 possibilités, et donc avec l'arbre de possibilités qui est au fur de la partie.
Ce type de choix un peu.
Alors, on n'est pas dans du jeu de stratégie, on n'est pas dans du jeu allemand à la Tigre et Euphrate, hein, soyons clairs. Mais ça, voilà, ça multiplie quand même un peu les choix stratégiques, et ça fait que les gens qui ont l'habitude de jouer s'y retrouvent aussi au niveau. Mais ça reste une extension, ce qui fait que le public chip peut commencer à jouer à Tokaido. Ça reste un jeu très simple, et si ça leur plaît, eh ben, ils peuvent passer à Crossroads. Et comme ils sont allés en étape, Crossroads, ça fait pas trop d'un coup pour eux. Et moi, c'est absolument ce que je veux garder avec un jeu, ce qu'on appelle un jeu passerelle, un gateway, comme disent les. Voilà, il faut gateway vraiment game, que tu puisses faire jouer. Voilà, moi, j'ai pu faire jouer ma mère à Tokaido, tu vois, qui joue au Scrabble, et c'est tout, quoi. Donc ça, c'était important. Si j'avais mis Crossroads, ma mère, je l'aurais perdu à la partie. C'est ce que je voulais éviter. Donc.
D'accord. Et justement, Tokaido, là, avec la campagne Kickstarter qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, comment tu expliques ce succès aussi important? Parce que vous avez atteint quoi? Plus de 400 000 dollars, c'est ça?
668 000 poussières, ouais, sur 40 000.
Oui, parce que les dernières 24 heures.
Toujours sur Kickstarter, dans les dernières 24 heures, ça
explose. C'est une somme énorme.
Bah, c'était une énorme surprise, hein, tu vois, l'éditeur avait fixé le premier palier à 40 000, on les a passés, je crois, en 3 heures.
Oui, ça a été super vite.
Et je t'avoue que, on n'en a pas discuté, je sais pas complètement à quoi c'est dû, parce qu'une fois de plus, c'est quand même plutôt un jeu familial, et sur Kickstarter, c'est plutôt quand même des gamers qui sont bien au courant, qui voilà. Je pense qu'il y a vraiment le côté, c'est un bel objet, et là il y a toujours des gens qui sont ravis d'acheter des, toi d'avoir plein de petites figues et tout. Ouais. Visiblement, il y a quand même des gens qui ont bien aimé le jeu, voilà, qui s'en servent beaucoup, notamment aux États-Unis. Le jeu marche très bien et les gens s'en servent pour initier des gens. Mais je t'avoue qu'on ne s'attendait pas à ce que ça marche autant, ouais, parce que j'avais un peu l'impression que le public Kickstarter et le public de Tokaido n'avaient pas forcément d'intersection. Mmh. Hein. Voilà, après, il faudrait faire un sondage, savoir. Voilà. Je pense que c'est aussi. La campagne a été bien préparée par Funforge. Elle était, enfin, quand tu arrivais sur la page, ça faisait très pro, très fini. Ouais, ouais. C'est quand même un éditeur qui a sorti des jeux.
C'est un jeu qui préexistait à la campagne.
Il y a quand même des gens qui sont ouais. venus en disant ah, ben, c'est un jeu d'Antoine, on l'a pas, mais bon, on joue à Seven, donc le jeu doit être au moins bon, pas forcément le jeu que j'adorerais. Et il y a plusieurs paramètres qui ont fait que ça a vraiment, vraiment marché. Quoi.
Et l'ajout de miniatures là-dessus sur le public américain.
Et puis, ouais, voilà, il y a toujours le côté. Ouais, moi, j'ai des copains qui jouent pas, qui ont pledgé, parce qu'on dit ouais, moi, je veux les 30 et quelques figurines, ça va être trop bien. En
ouais, moi, ça a beaucoup pesé dans la balance.
Je vais les mettre dans ma vitrine, en fait, je vais pas jouer avec. Tu vois, donc, je pense qu'il y a une partie de gens qui vont sûrement pas jouer avec, en fait.
C'est vrai.
Ouais, comme souvent dans les collectors, en fait. Voilà. Et du coup, moi, je devais pas du tout rajouter de gameplay. Hein, c'était pas prévu. Pour moi, Tokaido, c'était fini après.
Oui, parce qu'il y aura quoi ? Il y aura une mini extension, c'est ça, Matsuri ?
Alors, il y aura l'extension Matsuri, qui est une mini extension, ouais. Si tu veux. Hein, c'est pas le gabarit de Crossroads. Ça va être en gros, c'est un deck d'événements qui représente les Matsuri japonais. Et puis ouais. À chaque relais intermédiaire, le premier joueur qui arrive va pouvoir en mettre un en jeu et ça va changer un peu la donne. Donc, si c'est Horanami, ben tu vas avoir des plus de cerisiers à récupérer forcément. Si c'est la fête des garçons, ben les persos de sexe masculin aura un petit cadeau gratuit si c'est la fête des. C'est d'accord. Quoi, c'est les poupées, je sais plus comment
ouais, les poupées,
en,
ouais,
je sais plus le nom
ouais.
japonais.
Hina Matsuri.
Ouais. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de remettre un peu de culture parce que Tokaido, je suis vraiment attaché à partager la culture japonaise. Hein. Alors, je suis pas un expert non plus, mais non, l'idée c'est de partager mon amour de la culture japonaise de mon point de vue d'occidental qui est pas un expert, hein, qui est voilà. Donc et il y aura aussi du coup les nouveaux personnages qui au début devaient être que des relooking.
Oui.
Et puis finalement comme ouais, ça a très bien marché et les gens demandaient ça, je me suis remis à un tas de travail et du coup on va faire des vrais persos avec du coup un nouveau design, mais surtout un nouveau pouvoir. Donc ça fait que tu auras une trentaine de persos différents. C'est... Donc si tu veux rejouer le jeu là à nouveau. Bah tu retomberas pas sur le même personnage d'une partie à l'autre quoi.
Et de comment dire les thèmes japonais que tu choisis et l'attachement que tu as pour la culture japonaise et le Japon, ça te vient d'où? C'est venu chez toi assez tôt ou...
Ouais, moi j'ai commencé pour de mes vieux souvenirs d'ado, j'ai commencé à apprendre le japonais avec une petite méthode, c'était pas 6000 mais c'était un truc dans le même genre.
Ouais.
Alors que j'étais en voyage scolaire au collège, tu vois, et on était à Barcelone et on allait à la plage tous les jours, et moi, glander sur la plage, c'était pas mon truc. Et je me rappelle que je bouquinais mes leçons de japonais voilà, pendant que les autres étaient en train de se baigner ou de se balader dans Barcelone. Ouais, clairement, j'ai commencé à lire, tu vois, génération jeux vidéo, ouais. Jeux vidéo Japon, Japon après manga. En France, on a eu des mangas très très tôt. Moi, je me rappelle en acheter dans des boutiques de jeux vidéo en import japonais, tu vois, les vieux Dragon Ball où on comprenait rien, bien sûr, mais tu pouvais le lire quand même, c'est l'avantage de la bande dessinée.
En plus, c'était des prix fous à l'époque.
C'était de l'import. Donc, t'en achetais un, puis tu le faisais tourner parce que ça coûtait très cher. Et puis, les dessins animés de Ghibli à l'époque, on transcodait du NTSC au PAL en faisant tourner des copies pirates pour pouvoir les voir parce que ça passait pas au cinéma à l'époque. Hein. Et moi je suis tombé dans la culture japonaise là-dedans, puis tu vois l'animation, le jeu vidéo, après tout quoi, la bouffe, et puis la culture qui est différente et que j'adore quoi, le respect des choses et des gens qui est ici, moi j'adore venir au Japon, c'est vrai que si je pouvais y venir tous les ans, j'y viendrais tous les ans.
Oui.
Et puis voilà, je me suis trouvé à aimer en fait à peu près tous les aspects de la culture, toi, que ça soit la nourriture, l'état d'esprit, le lieu, le mélange entre le nouveau et l'ancien qui est ici, qui est absolument évident, particulier au Japon d'avoir un truc, un temple et à côté des distributeurs automatiques et peut-être un accès internet ultra rapide. Et moi j'ai toujours adoré les contrastes très marqués. Donc, tous ces trucs-là ont fait que je suis tombé un peu dans la culture japonaise et du coup naturellement je m'en sers pour faire des jeux ou quand j'ai écrit une BD ça parlait du Japon aussi.
Oui.
Et Tokaido c'était un peu mon envie de rendre au Japon et de faire un petit hommage et dire j'ai beaucoup utilisé le Japon dans mon travail et voilà pourquoi j'aime le Japon et j'aurais envie que quand tu joues à Tokaido tu dises le Japon ça a l'air chouette et j'aurais envie que tu aies envie d'y aller après ta partie quoi. Ça serait ma manière de rendre au Japon un peu tout ce que j'ai pris dans les projets que j'ai fait quoi. Donc Tokaido pour moi c'est vraiment le paiement au retour sur la culture japonaise. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'éditeur d'avoir une petite page où je peux expliquer voilà, les éléments qu'il y a dans Tokaido, ouais, les omiyage, la nourriture, ouais, l'histoire du Tokaido un petit peu, pas en détail, mais voilà,
qui sont intégrés au jeu.
Et je tiens à ça. Ouais. C'est pour ça que dans Matsuri, je vais piocher dans les vraies festivités, bon, les adapter aux besoins du gameplay.
Oui, bien sûr. Ouais.
Une fois de plus, l'histoire, c'est de repartager un petit bout de Japon et dire, regardez, en fait, ce pays, je l'adore et j'aimerais bien que vous l'aimiez aussi. Si possible, en jouant à Tokaido, là, j'aurais fait mon job. Quoi.
Et tu as jamais envisagé de vivre au Japon ou d'y passer
Si. Quand j'étais enseignant, j'avais commencé à faire les démarches pour éventuellement être transféré au Japon. Mais bon, c'était très compliqué hein, parce qu'il y a très, très peu d'écoles primaires.
Il y a l'école française qui dépendent. Voilà.
Et du coup, quand je m'étais renseigné, on m'avait dit qu'en gros, c'était à peu près la probabilité. C'est vraiment très très faible. Donc ça s'est pas fait et après j'ai commencé à faire des jeux et puis c'est quand même un milieu de relation où il faut être en contact avec les gens, donc quand ça commençait à marcher du coup c'était difficile de partir.
Oui.
Cela dit, ma femme aime bien le Japon, là je suis venu avec elle et notre petit. Et c'est pas une idée sur laquelle j'ai fait une croix, tu vois. Peut-être à court terme, revenir vivre un an, pour vraiment vivre à la japonaise pendant un an, ça me plairait vraiment. Donc ça va peut-être se faire, on va voir.
Ouais. Et la langue japonaise alors?
J'apprends, j'ai commencé à l'apprendre une vingtaine de fois en 20 ans à peu près, donc je dis quelques mots et je comprends quand on parle lentement, mais non, je parle pas le japonais, mais voilà,
oui.
Faut rester plus longtemps, c'est dur, en 3 semaines, c'est un peu dur d'avoir le temps de vraiment progresser en japonais, généralement on reste 3 semaines, quoi.
Oui, même après 10 ans, c'est pas si facile que ça.
Ouais, c'est pas... Bon, à parler ça, après, à lire et écrire, c'est vraiment pas une langue facile. Mais,
puis bien maîtriser les registres...
Les registres de langage, de politesse et tout, c'est pas évident.
Mais est-ce que tu as prévu... j'ai entendu parler d'un prochain jeu qui serait aussi thématisé sur le Japon, qui serait inspiré peut-être d'un film
célèbre. Tout à fait, ouais.
Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
Ouais, je peux en parler. Ouais. J'avais même pris le prototype dans ma valise pour avoir le temps de travailler un peu, parce qu'on est censé sortir à la Gen Con en août, et c'est très bientôt, je sais pas si on y arrivera, sinon ça sera Ison, la sortie. Ça devrait s'appeler Samurai Spirit, a priori, hein, c'est un titre anglais. Je suis désolé, je suis pas spécialement fan des titres anglais, mais c'est quand même le plus facile à l'export. Ouais.
Parce que c'est Chichin au Samurai, ça aurait été un peu difficile. Non, pour
vendre les boîtes aux USA, c'est pas évident les noms japonais. Et puis alors, c'est inspiré de Kurosawa, des Samurai, mais bon, c'est librement inspiré. Hein, on est un peu plus dans du fantastique, on a un peu dévié, mais ça reprend le pitch du film, à savoir, on peut jouer jusqu'à 7.
Oui.
En normalement 3 quarts d'heure, donc on reste dans ce que j'aime bien dans Seven, à savoir on peut jouer à beaucoup dans une durée de temps qui reste accessible, même si on joue pas en simultané là, mais les tours sont très rapides, c'est complètement coopératif, et donc c'est le pitch du film, à savoir les joueurs sont embauchés pour défendre un petit village contre l'attaque des brigands, donc,
d'accord,
voilà, ils doivent, donc on retrouve un peu des similitudes avec Ghost Stories, même si les formats sont très différents, c'est on est là et on défend un village contre un envahisseur extérieur, donc t'as un peu le même pattern que dans Ghost Stories, même si le gameplay est vraiment,
et c'est aussi punitif, ou
pour l'instant c'est pas complètement réglé, c'est aussi punitif pour l'instant, le taux de victoire est pas très élevé en mode normal, donc la grosse partie du travail qui reste, c'est de fixer les niveaux de difficulté, pour qu'on soit pas dans des trucs comme Ghost Stories, parce que finalement avec le recul on a réglé ça un peu dur, même si finalement c'est ce qui a fait la réputation du jeu aussi,
c'est ce qui
fait
que le jeu plaisir à terme quand aussi, on le bat quoi, c'est
donc voilà. Et ça, ça devrait sortir cette année. C'est illustré par un Italien, je ne vais pas dire de bêtises, c'est Victor, je ne sais pas son nom, le pauvre, qui a fait un super boulot. Là, et puis Funforge, à la direction artistique, j'ai toujours autant de plaisir à travailler avec Funforge, parce qu'au niveau artistique, ils sont vraiment très très forts. Donc ça sortira cette année, pas sûr que ça soit la Gen Con pour les Américains, parce que je risque d'être en retard, mais ça sera cette année.
D'accord. Et tu peux nous expliquer pour quel... pour quelle raison on s'est rencontrés ce matin et dans le cadre de quel événement on s'est...
Ouais, alors on s'est rencontrés parce que via Twitter, parce que j'utilise Twitter depuis très longtemps, c'est un outil que j'aime beaucoup. Et du coup, en tweetant mes vacances au Japon, on s'est retrouvés sur Twitter et on s'est aussi retrouvés avec le Nate, qui est le gérant du café Meeple. Donc on enregistre à quelques encablures du café et qui m'a demandé il savait que j'étais en vacances, il m'a demandé si ça ne dérangeait pas de passer au café pour faire une petite séance de dédicace et faire une partie de Seven Wonders. Donc là, on en sort, j'ai fait une petite heure de dédicace avec le public du café ici, et on a fait une petite partie à 7 avec des gens qui avaient gagné différents concours organisés par Ned du café pour faire une partie avec moi, et j'ai quand même sauvé l'honneur de mon statut d'auteur, j'ai quand même gagné la partie, ce qui n'est pas souvent, donc voilà, l'honneur est sauf.
Oui, et moi j'étais en très bonne position.
Voilà, on citera pas les scores, parce que ça intéresse personne.
Oui, surtout pas moi. Bon ben merci beaucoup pour cette interview, j'ai plein d'autres questions à te poser, mais je vais te poser une dernière quand même, plus sur ton voyage au Japon. Est-ce qu'il y a des... comment dire... Bon, je suppose que Kyoto est la ville que tu préfères au Japon, ou est-ce que tu as d'autres lieux... est-ce qu'il y a d'autres lieux que tu aimes?
Alors, je pense pas que ce soit Kyoto, non. J'ai vraiment aimé Hiroshima et Nagasaki, en fait.
D'accord.
Nagasaki, avec les maisons dans les collines, ça nous a vraiment rappelé les dessins animés du studio Ghibli. C'était assez... avec les petites mamies toutes courbées qui montent leurs courses sur des escaliers sans fin, où tu te demandes comment elles font ça tous les jours. voilà. Là, on est revenu à Kyoto, parce qu'on est venu avec un couple d'amis et leurs petits, donc on est revenu, on voulait pas trop se déplacer avec les enfants, donc on est revenu à... on a fait simple, on fait Kyoto, un peu la plage et Tokyo. Et puis moi, c'est la quatrième fois que je viens, mais j'ai fait Kyoto et Tokyo que lors de mon premier voyage il y a 10 ans, en fait.
Oui.
Depuis, j'ai fait Kyushu, Shikoku, et on n'est jamais repassé par les grandes villes. Donc là, c'était l'occasion de revenir à Kyoto et on n'a pas vu les mêmes choses. C'est la première fois que je viens au printemps. Donc là, l'idée, c'était de venir pendant la floraison des cerisiers. Et c'est vrai que rien que ça, ça vaut le déplacement. Rien que les cerisiers en fleurs, ça vaut vraiment le déplacement. C'est vraiment magnifique.
D'accord. Bon, ben, puisqu'on est au Japon et qu'en général, la nouvelle année commence en avril, au Japon, tout ce qui est... les nouvelles années scolaires, etc., commencent en avril. Ben, je te souhaite une très bonne rentrée.
Ben oui, bonne rentrée à toi.
Merci, à bientôt.
Voilà, ce mois-ci peut-être du DAI. Est-ce que tu peux poser la question à Alexis en live pour savoir si...
C'est ça. Commentaire. Bon, est-ce que déjà...
Le dernier commentaire d'Alexis, c'est oups.
Parce qu'en fait,
déjà, pour avoir suivi du 56.
À l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a toujours pas le DAI de l'épisode rose. Donc, si vous voulez prendre un mois off, vous pouvez. Et puis, on verra. Donc,
il dit demain.
Demain, mais c'est enregistré ou pas?
Il le monte demain.
Pour l'épisode rose.
Ah ouais, donc on le reçoit dans 3 semaines, donc il sera en ligne dans le 58.
Donc pas de DAI ce mois-ci. je vais enregistrer les deux. Et alors, voilà, les d'ailleurs nous ont enregistré une petite chronique, comme à l'habitude.
Super!
Ou alors, pas de DAI aujourd'hui.
Oh!
Oh! Non, enfin, on peut les saluer quand même parce que ils ont. Je suis un petit peu exigeant. Et j'ai.
Quand tu dis un petit peu, c'est.
Bah, un petit peu, quoi.
C'est un petit peu.
Sauf avec l'orthographe. Mais à part ça.
Non, voilà, t'es plus exigeant avec le son des micros qu'avec l'orthographe.
On a demandé en fait à ce que les gens les retrouvent régulièrement dans Proxy Jeux. Ouais, c'est ce qu'on t'a demandé aussi, Yannibus, d'avoir quelque chose. On voulait que. Pas seulement donner envie aux gens d'une chronique. Et puis après, de ne pas leur donner ce que... Enfin, juste les faire envie, et puis après, de ne pas leur donner ce qu'ils envisagent, mais qu'il y ait quelque chose de continu. Et il y a une rencontre, en fait, entre Alexis et Courju. Il y a quelque chose d'improbable qui s'est passé, et puis il y a quelque chose qu'on ne présageait pas du tout.
C'est une chronique qu'on n'avait pas prévue, en fait, au début, quand on a mis en place la saison.
Non, c'est un même pack-up, qu'en fait. Ouais. C'est, prends le micro, puis vas-y. En fait, c'est aussi pour ça qu'on fait du podcast, quoi. C'est parce que c'est des belles rencontres et j'aime beaucoup écouter ce que tu vas dire, même si, en fin de compte, ça me fait penser à d'autres podcasts que j'enregistre, que j'écoute.
Ça me fait penser...
Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à d'autres podcasts que j'écoute où je comprends pas grand-chose, tu sais, mais où je suis super enthousiaste d'entendre des trucs comme ça. Oh, ça doit être super, ce qu'ils font. Ouais, bref.
Ils doivent parler de l'informatique.
Donc big up à eux.